all, but I make a move. Don't think twice now, you got things to prove. I'm not playing, I'm not hard to get. Cause when I saw you, there was nothing else. You got dreams and I got dreams, so let us open up about it. Maybe we will fit right in. You got dreams and I got dreams, so let's start making plans around them. Maybe we can dive right in. Ah, on est de retour. Ah, quelle matinée agitée. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, on a bien rigolé en introduction du live tout à l'heure, lancé vers 9h, 9h15, 9h30, mais on a eu une série de SMS étranges de quelqu'un qui manifestement voulait prendre contrôle de mes mails et de mon compte Uber. Un profil très précis, voilà. Donc, suivant les conseils avisés et éclairés de la commu, on m'a dit, bah écoute Sam, il faut que tu cutes ton live et il faut que tu ailles changer tes mots de passe. Voilà, et on a tout changé. Je pense que, voilà. Et sans difficulté aucune, aucun mot de passe n'avait été changé, le contrôle de rien, j'ai changé tout. J'ai changé mail, j'ai changé donc compte de transport, on parlait d'Uber, et le compte le plus important, bien sûr. Le compte le plus important qui est Ah oui, le compte Valo. Non, même pas Twitch. On peut vivre sans streamer, mais on peut pas jouer sans Valorant. On a changé le compte, le mot de passe du compte Riot. Parce que c'est ça qui voulait le hacker. On n'est pas dupes. Les comptes en banque, les mails, le compte de sécurité sociale. Le compte OnlyFans, que nenni, ce qu'ils veulent, on sait très bien ce qu'ils veulent. C'est les skins! Voilà. Donc j'ai bossé assez vite, hein. Ça m'a pris quoi, 1 heure? 1 heure, quoi. Voilà, bon, désolé pour ce faux départ tout à l'heure. Merci de votre patience. On a bien rigolé quand même, puisqu'on on a beaucoup, on s'est beaucoup amusé sur les nouvelles lunettes. Hein. Ce ne sont pas les lunettes d'hier, c'est une plus grosse paire encore. Deux lunettes, hein. Voilà. Moi, j'étais parti plutôt sur cette piste-là, et la communauté, dans sa gentillesse, dans sa douceur, dans son amour, est partie sur cette piste-là. Voilà. Pedro Pascal. Plus Pascal que Pedro, à mon avis, mais bon, voilà. Moi, je pense qu'on est plus sur une vibe là-haut que sur Pedro Pascal. Mais bon, on a bien rigolé. Donc, j'ai supprimé le replay d'ailleurs tout à l'heure parce que c'était juste un stream intro. Voilà, c'était très drôle, mais c'était un stream intro. Qu'est-ce qu'on fait d'Axel là, qui a écrit des trucs sur le Vietnam là? C'est quoi cette matinée des hackers et des gens qui écrivent des diableries en anglais là? Les modos, je vous laisse gérer ça. Ah, il est passé à Vive l'Algérie, Axel, qui parlait en anglais là. Non, il est dépublié, Sugar. Non, tu veux que je le. Sugar, tu veux que je le remette? Il est pas supprimé, il est dépublié. Tu le veux? Il y a des trucs qui t'intéressaient dedans? Bon, Axel, on lui fait quoi, Axel, là? Les modos, vous faites quoi avec des comptes qui racontent n'importe quoi? C'est quoi la politique maison? Vous voulez que je vous le remette l'intro de 30 minutes tout à l'heure? Je suis pas un bot? Bah si quand même. Utilisateur suspect, contournement de bannissement, accès restreint. Oh là là. C'est ton profil, mon chouchou. Incroyable. Hein? Donc, Sugar, tu veux que je republie l'intro de tout à l'heure? Dis-moi. Oui, c'est bien les intros? Bon, alors je la remets, ok. Twitch. 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 Twitch, 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 contenu, studio vidéo, republier, tac, publier, hop, c'est publié, c'est fait, c'est accessible. Tu vas nous refaire l'intro de toute façon. Ah ben non, on va partir sur la revue de presse parce que moi, il faut que je vous lâche dans 2 heures et demie là parce que j'emmène les enfants à la gare. Pourquoi t'as changé de lunettes? Parce qu'en fait, c'est 2 paires pour le prix d'une, c'est ça qu'ils font maintenant chez les opticiens. Donc je devais changer les lunettes parce que les autres étaient plus bonnes. Donc j'ai une paire que j'ai mise hier un peu plus discrète. Et puis cet énorme pare-brise là. Voilà. Et donc je vois un petit peu les réactions de la commu. S'il vous plaît, merci Draxla, tu régales. Merci pour le 12e mois. Premier sub de ce 2e stream de la matinée. Voilà. Tout simplement. Voilà. Oui, c'est résolu le souci. Bon, bah, on reprend le fil de la revue de presse du coup. Ok? Bah, du coup, on part direct sur un sommaire. Puisque l'intro, on l'a faite tout à l'heure. Hein? Vous en pensez quoi? Parce qu'en fait, ouais, à midi 30, j'emmène les enfants à la gare. Et après, je reviens ici avec Joe, on prépare une mini surprise. Mais avant, t'avais des lunettes avant, ça fait 5 ans que je regarde, j'ai jamais fait gaffe. Non, j'ai des lentilles, Wallart. Pas fan du tout des lunettes, mon Samu. Mais si, ma lunette, homme super chouette. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Oh, mais vous savez ça. Voilà, allez, est-ce que ça se connecte ça? Une surprise de type une émission de tatouage? Non, une petite surprise. Peut-être, je sais pas, on verra. On tente des trucs. Merci, Sugar. Alors, est-ce qu'on a une tablette? Ha! Incroyable. Défécateur, tu régales. Merci, mon ami. Bonjour, Alexandra. Bon, est-ce que vous voulez que je vous dise de quoi on parle ce matin dans la revue de presse? Sommaire, hein. Après, on ira dans le détail. Oh, ma kékette, c'était drôle, Moulbite. Bah si, Le retour 8, le retour 8, je lui dis homme à lunettes, homme super chouette. Le retour écrit homme à quéquette. On connaît la blague. Et un modérateur a supprimé le message de le retour. Un modérateur qui s'appelle Moulbit. Moulbit, modérateur, supprime un message qui dit homme à quéquette. C'est encore une fois l'hôpital qui se moque de la charité. Tu te fous de notre gueule, Moulbit. Ton pseudo, c'est Moulbit. Et tu viens de modérer un gars qui a écrit homme à quéquette. Alors vous êtes dans la même team, vous êtes peut-être dans la même famille, vous êtes peut-être même cousin. Vous êtes peut-être même frère. Enfin! Excuse-nous, ami qui a été modéré, il ne sait plus ce qu'il fait, Moulbit. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il veut sans doute le monopole de la blague grivoise. Merci, Bjarne Soustrup. Merci pour le 7e mois. Merci de ton retour. Hein? C'est ça qu'on veut ici? C'est du monopole? C'est fou, ça. Est-ce que je vous dis ce qu'il y a dans l'actualité ce matin, bande de beaux gosses? Oui? C'est oui, c'est go, j'ai un yes. Un yes bien gras là. Allez, c'est parti. Ok. Premier sujet ce matin, on va parler de. Bah, pas mal parler d'environnement ce matin. Ouais. Et d'écologie avec l'alerte sur la pollution plastique dans le monde, ça ne va pas du tout là. Bon, je vous en ai déjà parlé, mais il nous manque des choses. Là, regardez la une du Figaro. Tiens, le Figaro qui a un petit peu mangé là-haut. Ah non, c'est pas le. Non, non, c'est. Ah, c'est plus joli là. Voilà. Regardez cette une du Figaro. Voilà, on est bien. Bon, attends, je suis un peu maniaque. Voilà, on essaie plus joli. Voilà. Merci Mine. Comment je dis? Minez? Merci en tout cas pour le soutien. Tu mets plus les effets sonores quand quelqu'un fait une blague. Ah oui, c'est vrai, on faisait ça à une époque, Martin. Donc, on parlera de ça. On sait bien plus que le 7e continent, et même, j'ai sais bien plus que ça. C'est pas le 7e continent. Le plastique, il est partout. Il est partout. Il est dans notre bouffe, il est dans les végétaux, il est dans les animaux, il est dans notre eau. Oui, c'est exactement. C'est pas le 7e continent, c'est la deuxième planète. Exactement. Dans notre corps, oui, dans notre corps, oui. Le monde engage la pollution, la bataille contre la pollution plastique, c'est la une du Figaro ce matin. Des négociations cruciales s'ouvrent ce mardi, c'est aujourd'hui à Genève, pour parvenir à un traité international limitant la prolifération de ces déchets néfastes pour l'environnement et la santé humaine. Il n'y a rien qui va là, il n'y a rien qui va. Gros dossier dans le Figaro, une bataille mondiale contre la pollution plastique. Voilà. Et même des petits conseils pratiques dans le Figaro, comment limiter son exposition quotidienne aux microplastiques. Voilà. Salut Chironex. Donc, le Figaro n'est pas le seul journal à en parler. Hein. Je crois que Libération consacre également sa une à ce dossier. Regardez. Pollution plastique avec un coup de projecteur sur ce qu'on appelle les larmes de sirène. Vous savez ce que c'est les larmes de sirène? Je ne savais pas moi. Le poison des larmes de sirène. Vous saviez-vous? Merci Cyril pour le 41e mois d'abonnement. Symptôme d'une pollution hors de contrôle, c'est les toutes petites billes de plastique. Hein, qui sont la base à plein d'objets en plastique. Hein, c'est ce que les industriels utilisent. C'est ce que j'ai découvert dans Libération ce matin. Ces billes de pétrole, parce que évidemment c'est fabriqué à partir de pétrole, envahissent notre environnement. Ce mardi à Genève, 175 pays se retrouvent pour négocier un accord de réduction de la production plastique. On connaît les larmes de croco, oui. Mais là, ce n'est pas les larmes de crocodile, c'est les larmes de sirène. C'est bizarre que personne ne m'ait parlé des larmes de Pierre Chabrier, c'est bizarre, personne n'a fait la blague, c'est étonnant. Les larmes de sirène alarment. Les billes issues du pétrole, utilisées pour la fabrication des objets en plastique, s'échappent en masse des sites industriels, s'échouent sur les côtes et les berges. Ce phénomène qui inquiète ONG, élus et scientifiques sera abordé à Genève à partir de ce mardi par les États membres de l'ONU. Ouais, je viens d'avoir une idée. Ouais. À une époque, vous savez, on faisait des. Je faisais un résumé de l'actualité que je postais sur TikTok. Mais c'était un boulot de fou. C'était un boulot de fou parce qu'en fait, je le faisais avant la revue de presse. Et en gros, en 3, je ne sais plus combien la durée du clip max sur TikTok, mais j'enregistrais une petite vidéo à part que je postais sur TikTok. Mais ça me demandait vraiment un gros travail en plus de la revue de presse, qui est pour moi la priorité. Et je suis en train de me demander si je pourrais pas demander à Lucie, qui gère ma chaîne TikTok, de poster en fait le sommaire. tous les jours. Tu vois? Ça donne l'essentiel de l'actualité. Alors, en plus, ça donne le ton de la rue de presse. On dit des bêtises, on dit des conneries. Tu vois? On parlait à Lucie. Hein? Le sommaire. Donc voilà, on parlera de ça, bien sûr. À Genève, les négociations de la dernière chance. Alors ça, parfois, il y a des choses qui vont mieux, hein. Après l'adoption d'une loi en 2016 en France, l'utilisation de sacs plastiques, par exemple, a été divisée par 4, vous vous rendez compte? Mais certains modèles perdurent en raison d'exceptions. Ouais. Donc voilà, on parlera de ça ce matin. Vrai problème de santé publique, si on en doutait encore, nous dit le toxicologue Xavier Coumoul dans Libération. Donc voici la première information dont je vous parlerai. Et après, on parlera de drogue. Ouais, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Tu as pris la confiance depuis que tu as commencé à streamer. Avant, tu étais tout timide. J'étais timide, dame. Les habitués, les anciens, les 40 et quelques mois d'abonnement, là. J'étais timide. J'étais timide. Non, c'est pas la une du Parisien sur le gaz hilarant. Camille me parle de ça. C'est pas ça. On en a déjà parlé plein de fois du gaz hilarant ici pour dénoncer les dangers de ce truc-là. Et en fait, le dossier, pardon aux Parisiens, mais le dossier du Parisien n'ajoute vraiment rien à ce qu'on a déjà lu. Donc je vous le lirai pas. Parce qu'il n'y a rien de vraiment nouveau. J'ai déjà alerté ici sur les dangers du gaz hilarant. Non, c'est bien plus grave encore. Regardez, on va page 7 dans la croix. C'est un rapport là, qui fait froid dans le dos. T'étais pas plus timide et t'avais plus de cheveux, mais allez-vous. Regardez page 7. Non, c'est pas page 7. Ah non, je pense que c'est dans l'humanité le petit résumé. J'ai noté la croix, mais c'est dans l'humanité. Je suis sûr que c'est dans l'humain. Je suis sûr que c'est dans l'humain. Regardez. Un narcotrafic sans frontières se développe en France. Un rapport confidentiel, bon, il n'est plus vraiment confidentiel maintenant, hein, de l'Office français anti-stupéfiant dresse un constat alarmant de l'état du trafic de substances illicites sur le territoire français, désormais l'un des pays d'Europe les plus touchés par ce phénomène. Voilà. Donc j'ai trouvé un premier article dans l'Humanité qui résume très bien cette histoire. Il y a un vrai problème sur le trafic de drogue en France, voilà. Touché par un narcotrafic sans frontières. Voilà. Et il y a un dossier encore plus grand dans Le Monde. Je crois que c'est même la une du Monde. Ah, Le Monde, il nous fait des ciels en ce moment. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une petite capture d'écran. Ça ira bien. Je vais vous montrer la une du Monde. Je vais vous montrer le dossier aussi, qui est page 6 et 7 dans Le Monde. Je vous fais la petite capture d'écran avec mes petits doigts agiles. Parce qu'ici, on a des doigts agiles ici. Hop, la une est capturée. La page 6 fait la maline, mais va être capturée aussi dans un instant. On est comme ça ici. Hop, et la page 7 est en train d'arriver, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. C'est magique. Voilà. C'est du travail de haute précision. Ne faites pas ça à la maison, hein. C'est vraiment réservé aux professionnels. Voilà, voici la une du Monde. Drogue, des réseaux de plus en plus menaçants. Le rapport annuel de l'Office anti-stupéfiant souligne combien les trafics cocaïne-cannabis touchent désormais l'ensemble du territoire. C'est un sub-goal, les lunettes? Non, c'est la sexy attitude. Pour les trafiquants, notamment sud-américains, la France est à la fois un marché à fort potentiel et une zone de rebond vers d'autres pays. Le directeur adjoint de l'OFAST constate la saturation des services de police et de justice face au réseau criminel. Bon, bah ça, on savait, hein. Issus du banditisme des cités, les principaux groupes actifs sur le territoire national ne cessent de gagner en puissance et en violence. On en a parlé plusieurs fois déjà. Le nombre d'assassinats et de tentatives d'assassinat entre délinquants a bondi de 33% depuis 2021 et concerne tout le pays. Moi, je vous lis régulièrement des papiers là-dessus, hein. Pas tous les jours, c'est pas une obsession, mais il y a un truc qui va pas quand même, hein. L'offre de drogue désormais sans zone blanche. Dans un rapport, l'Office anti-stupéfiant alerte sur la violence érigée en contre-culture et sur l'emprise grandissante du narcotrafic en France, l'un des pays d'Europe les plus touchés. Ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Donc on lira ça ce matin. Voilà. Je serai en école de gendarmerie dans un mois, donc je serai en plein dedans, me dit Kéboub. Bah ben voilà. Est-ce que tu as le droit de montrer les articles payants de la presse comme ça? Très bonne question d'Emeric, qui m'a été posée un petit millier de fois depuis 5 ans. C'est normal, c'est une très bonne question. Il faudrait que je fasse un petit bot là-dessus. En fait, oui, c'est ce qu'on appelle le c'est la revue de presse, c'est un droit encadré, le droit à la citation. Emeric, ne t'excuse pas, c'est une très bonne question. Ce que je n'ai pas le droit de faire, par exemple, c'est de lire n'importe quoi, l'intégralité du Parisien tous les matins. Ça s'appelle pomper un contenu, ça. Hein. Voilà. Tu vois, je lis le Parisien, dans le Parisien, page 2, page 3, j'ai des articles. En fait, je m'approprie le travail de tous les journalistes de la rédaction du Parisien pour créer un contenu que je monétise après. Ça s'appelle du vol. La revue de presse, c'est autre chose. La revue de presse, c'est quand, comme je le fais, tu lis tous les matins Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe, voilà, et tu vas chercher un ou deux articles par journaux et pas plus pour mettre en avant la qualité du journal et tu panaches tes sources et tu cites plusieurs journaux, voilà. Et à partir du moment où tu cites plusieurs journaux, et pas dans leur intégralité mais seulement une partie, je ne lis que quelques articles et qu'une partie seulement des articles que je lis, là c'est ce qu'on appelle le droit à la citation, le droit à la revue de presse, c'est encadré, hein. On fait ça en télé, en radio depuis très longtemps. Voilà. Donc là c'est ce qu'on fait aussi ici, sinon je ne me serais pas permis de le faire, quoi. Tu paies combien d'abonnements en revue par mois si c'est pas indiscret? Bah, un petit peu de sous, quoi. Tu as déjà eu des coups de pression de journaux? Bah non, Martin, ils sont très contents. Ils sont très contents qu'on fasse ce travail, qu'on mette en avant la qualité de leurs journaux. Ils sont, au contraire, ils sont ravis. Ils nous disent merci, ils vous disent merci. Donc on parlera de drogue ce matin. On parlera aussi de Bayrou sur YouTube. Tiens, je vous parlais du Parisien à l'instant. Intéressant l'article dans le Parisien ce matin, c'est page 5. Regardez ça. Bayrou sur YouTube. Ça m'a interpellé, ça. Le Premier ministre lance ce mardi une série de vidéos pour expliquer le tour de vis présenté mi-juillet. Vous vous rappelez, on avait React, le discours de présentation du projet de budget pour la rentrée prochaine, là. Voilà. Eh ben, c'est pas tout. Il y a des petites vidéos qui arrivent à partir de 17h aujourd'hui. Ouais. Comme ça, vous pourrez le mettre en x2 à l'aster. Très bonne remarque, ouais. Comme il parle doucement. Oh non, ça va être cringe. Bah non. Non, l'avantage, c'est que comme il parle assez lentement, vous le mettez en x2, franc 3, x3. Et ouais, c'est pratique. Voilà. Donc ça parle d'être du direct, hein. Voilà, le premier numéro sera consacré au cadre général à la nécessité de désendetter le pays. Voilà. Pips écrit point d'exclamation RDP. Revue de presse. RDP dans le chat, tu auras la réponse à ta question. Doivent suivre quotidiennement les épisodes thématiques revenant sur les difficultés engendrées par la dette abyssale et les solutions qu'ils proposent pour y faire face. Il y a des épisodes, c'est comme Netflix. Voilà. Donc on lira ça, c'est vachement intéressant. On est dans le sommaire. Donc je n'en dis pas plus. Je vous mets l'eau à la bouche. Essayez de pas trop baver quand même. Et puis je vous parlerai de quoi? Au cas je vous parlerai de. Ah oui, c'est un truc qui me plaît bien, ça. Depuis un mois, les journaux ne cesse de faire des dossiers sur le vieillissement de la France, la baisse de la natalité. Voilà. On ne fait plus assez d'enfants en France pour assurer le renouvellement des générations, pour financer notre système de protection sociale, et notamment de retraite, hein, qui est un système de solidarité, où il faut des actifs pour cotiser, pour payer pour les autres, les retraités, mais pas seulement, quoi. Et donc, chacun y va de son petit dossier. Eh ben, j'en ai trouvé un autre ce matin encore, c'est la une de l'opinion, regardez-moi ça. J'adore le titre. Ah oui, le réarmement à la peine, ouais. Ça lui tient à cœur ce sujet, bah oui, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce qui m'a. Ah ben, l'opinion aussi, il bug maintenant? Ah ben, l'opinion, c'est comme le monde. Ah ben, autre chose. Oui, je me veux. Oui, je me veux. Ils ont mis des firewalls ou quoi? Eh ben, ça va, je vais vous faire une petite capture d'écran. Allez, le titre est génial, vous allez voir. C'est La France face au péril vieux. Je me demande, c'est pas ma carte d'acquisition de mon PC qui commence à partir en sucette, moi. La France face au péril vieux. C'est moi, en fait, le péril vieux. Alors c'est la une et puis c'est la page 2. Voilà. Le péril vieux. Il y avait le péril jeune. Péril jeune, c'est pas Clapiche, ça, c'est pas un film de Clapiche, ça, le péril jeune? Avec Romain Duris, c'est pas un peu le film qu'il révèle d'ailleurs. Voilà. Hop. Tac. 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 Regardez ça. La France face au péril vieux. Voilà. Très bonne blague de Bactarus, hein, qui se moque un peu du conflit des générations, dont je me moque aussi beaucoup. Moi, je dis, les vieux, faut les tuer à la naissance. C'est très très drôle, ça. Voilà. Les jeunes alternent entre célibat et vie de couple. On se penche sur les raisons de la baisse de la natalité. L'inquiétant sol naturel de l'Hexagone. Voilà. Un dossier de plus sur le sujet. Voilà. Pourquoi je vous le lis? Oh, c'est surtout le titre qui m'a fait marrer. Voilà, parce que bon, ce dossier, franchement, ces dernières semaines, on en a beaucoup parlé. Neriad Didri, merci pour ton deuxième mois d'abonnement. Et merci, j'ai pu régler les problèmes de sécurité. J'ai retrouvé le hacker, je lui ai pété la tête. Ça, c'est fait. Voilà. Et puis, oh, on finira de façon très légère et très sympathique. En musique, la baisse de la natalité. Ah, bah oui, on fait beaucoup moins d'enfants en France. Bah oui. Ah, bah ça, c'est oui, ça, c'est même plus. Hein, les chiffres sont un peu alarmants, ouais. On en parle souvent, il y a plein de dossiers, quoi. Et on finit en musique, regardez, c'est grâce aux Parisiens aussi. Qui nous fait un truc sympa là. C'est page. Les tubes de l'été. J'ai découvert des trucs, moi. Tubes de l'été, le soleil bleu. Qu'est-ce que c'est que ce truc de soleil bleu là? Merci depuis que les femmes bossent donc. Non, rien à voir, non, rien à voir. Rien à voir. Ce soleil bleu réchauffe l'été. Non, c'est pas une. Non, je suis avec vous jusqu'à 13h30, Sugar. Non, j'en ai pour 2 heures là. Vous connaissez le soleil bleu, c'est le tube de l'été. La collaboration entre le duo Bleu Soleil et la chanteuse Louisa est la chanson la plus écoutée en France. J'ai écouté. Mais c'est mignon. Voilà. Et puis, du coup, il y a un coup de projecteur sur les tubes de l'été. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ambiancer? On va s'ambiancer? Je connais pas. Moi, en plus, je connaissais pas Nymphéros. Je suis allé voir. On va s'ambiancer tout à l'heure, on va écouter de la musique. On va calancher, on va onduler. Tu peux mettre un extrait, mais on va mettre des extraits, on va mettre des extraits, on va écouter les morceaux surtout, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ça va groover. Oh, j'ai pas entendu ça depuis 1991. Ça va groover, j'adore. Ces tubes de l'été que personne ne connaît. Ah bah ça c'est ça c'est ça c'est mon c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Hein. C'est pas ma faute si vous n'êtes pas au courant. Hein. C'est ça ton plan pour réarmer la France? Exactement, ça va zouker. Ne le dites pas, mais je fais partie d'un complot international pour réarmer la France, démographiquement. À base de zouk. Ouais. Ouais. C'est mon arme secrète. Ça va. Ouais, j'en dis pas plus, parce que c'est un plan secret. Bon, elle est pas belle ma revue de presse ce matin? À toi tout seul ou tu veux? Non, non, pas à moi tout seul. Non, c'est pas moi qui vais réarmer. Je vais inciter les Français à réarmer. Avec des plein de mesures, plein de ça va jerker sur la musique pop. Oh, faut faire des micro-trous dans les préservatifs des usines. C'est prévu, c'est prévu. Moi, président, je ferai des trous dans les préservatifs. Moi-même, j'irai la nuit dans les usines de préservatifs et je ferai des petits trous avec des aiguilles. Moi, personnellement, vous allez voir que ça va pas réarmer. Trakeo Sam, tu feras partie du roster Valorant de France pour les Olympiques eSports Games en 2027. Ah bon? Ah bon? Et le consentement des futurs bébés? Non, mais pas con ça. Non, mauvaise idée. On fera pas des petits trous. Non, il faut que l'enfant soit désiré. Non, non. Non, non. J'annule mon décret. J'annule mon décret. Non, 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 non. L'enfant doit être désiré. Il faut que ce soit voulu. Pour le bien de l'enfant et des parents. Voilà. Donc j'annule ce décret. Il n'y aura pas de petits trous dans les préservatifs. C'était une mauvaise idée. Nous venons, le conseil ministériel de la chaîne Twitch de Samuel Etienne vient de revenir sur sa décision. Bon, ouais, pas mal, hein. Bon, on commence avec. On commence avec quoi? La pollution plastique? Histoire de vous donner envie un petit peu de vous projeter dans le monde qui arrive là? Monde de pessimistes. Hein? Trop tard, j'ai 8 enfants maintenant. Oh, dis-donc, un short, c'est fou ça. Allez, c'est parti. C'est parti pour la revue de presse. Ouais, c'est réparé, merci Stormwast. Le monde, comme quoi tu feras un bon politicien, tu écoutes trop bien les gens. Mais justement, râleur, le problème, c'est que les politiciens, ils n'écoutent pas les gens. Moi, j'écouterai les gens, moi. Je ne ferai que ça, d'ailleurs. Je serai dans mon bureau et j'écouterai les gens toute la journée. Je ne prendrai aucune décision, je ne ferai qu'écouter, moi. Je hocherai de la tête comme ça. Comme ça. Puis en fait, en douce, j'aurai à Valo sur mon bureau. J'aurai des petits écrans comme ça. Allez. Petite tête là. Hop, flash. Allez, Molly. Allez. Allez, fais crota, fais crota. Voilà. Et puis j'écouterai les Français, je ferai. Vous allez voir. On tient 5 ans facile. 5 ans, je vais passer Silver. Comment tu fais pour pas être pessimiste avec ces news? Oh, parce que les médias sont un miroir déformant de ce qui se passe réellement dans l'actualité. Et les médias ne vous rapportent que ce qui ne va pas. Et c'est leur rôle. Les médias vous rapportent ce qui ne va pas dans le monde, dans notre société notamment française, pour en prendre conscience et les changer. Voilà, c'est normal de parler du réchauffement climatique, de la criminalité, des crises, des plans sociaux, de tout ce qui ne va pas. Voilà. Parce que c'est en connaissant les soucis qu'on peut à un moment, un jour, se mettre en situation de les régler. Mais c'est un miroir déformant. Hein. Le monde n'est pas que ça. Hein. Le monde, c'est aussi votre quotidien qui est fait de plein de belles choses. Je suis sûr que votre quotidien, il est beaucoup moins anxiogène que tout ce que je vous raconte le matin dans l'actualité. Voilà. Et donc, quand j'arrête de lire les journaux le matin avec vous, qu'est-ce que je fais? Ben, je retrouve ma famille, je retrouve mes amis, je retrouve mes passions. Et je me dis que le monde n'est pas que ça. Voilà. Même si, dans le monde, il y a ça. Il y a les Palestiniens, il y a le Proche-Orient, il y a l'Ukraine, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Voilà. Et puis je bois de l'eau aussi beaucoup. Bon, la pollution plastique. Le Monde engage la bataille contre la pollution plastique, c'est la une du Figaro. Des négociations cruciales s'ouvrent ce mardi à Genève pour parvenir à un traité international limitant la prolifération de ces déchets néfastes pour l'environnement et la santé humaine. Ça a l'air sérieux. Les représentants de 180 pays se retrouvent aujourd'hui pour une séquence diplomatique cruciale, c'est le Figaro qui le dit, dans l'espoir d'adopter un premier traité mondial pour limiter la production de ces déchets. Reviens un petit article. Voilà. Lisons vite fait les infos. C'est un énième rendez-vous de la dernière chance, nous dit le Figaro. Je vous avais parlé des négociations de Busan en Corée du Sud en décembre dernier sur le même sujet. Le Figaro rappelle que c'était plutôt un échec. Donc les représentants de près de 180 pays se réunissent à nouveau du 5 au 14 août à Genève, hein, en Suisse, pour une session de rattrapage des négociations à propos du plastique sur fond de fortes tensions géopolitiques et commerciales. Vous imaginez bien que les enjeux économiques et commerciaux sont gigantesques. Depuis 3 ans, le Monde tente de s'accorder sur un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique. Un fléau qui n'épargne aucune partie du globe et en constante expansion au rythme actuel de la demande, l'utilisation mondiale des plastiques devrait tripler entre 2019 et 2060, fois 3 par rapport à aujourd'hui. Ouais. Pour passer de 460 à 1321 millions de tonnes, avec une forte contribution des emballages et des matériaux de construction dans les pays émergents, selon les prévisions de l'OCDE. Parallèlement, les projections ne permettent pas d'imaginer une hausse du taux de recyclage au-delà de 12%. Ok, fois 3 le plastique et 12% d'augmentation du recyclage. Il y a un truc qui ne va pas. Actuellement, des millions de tonnes finissent chaque année dans la nature, notamment dans les océans. L'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans l'océan chaque minute. Au fil du temps, le plastique se dégrade, se fragmente en d'infinis morceaux qui, pendant des milliers d'années, vont s'insinuer partout, dans l'air, dans les rivières, dans les nappes d'eau, les aliments, les êtres vivants et même notre sang et nos organes. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, dernier train pour Busan, exactement. Voilà. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire des zombies. Ça va être zombies et compagnie après. Eh oui, je vous le dis, moi. Les conséquences sur notre santé sont encore largement méconnues. Zombies. D'autant que le plastique charrie avec lui plus de 13 000 additifs chimiques, selon l'ONU. Il y a le plastique et il y a tous les produits qui vont avec, quoi. À Busan, les discussions internationales ont opposé deux visions irréconciliables, selon un spécialiste des déchets plastiques pour la fondation Tara Océan. Voilà. D'une part, la coalition des Willing, ceux qui veulent avancer, qui lors de la plénière finale ont marqué un vif agacement face à l'obstruction systématique des like-minded, des pays récalcitrants au traité. Voilà. Donc, c'est intéressant de savoir quels pays sont dans quel bloc. Les négociations se sont enlisées au fil des jours avec l'émergence d'un bloc de puissance pétro-gazière, bah ouais, pétrole, plastique, Arabie Saoudite, Russie, Iran, opposé à toute limitation de production mondiale de polymères. Pas étonnant puisque le plastique reste un débouché crucial pour ces pays face à l'électrification des transports. 4 à 8% de la production mondiale de pétrole sert à fabriquer du plastique. Et cette part devrait atteindre 20% en 2050. Tu m'étonnes que les pays producteurs de pétrole ne sont pas tellement pour un encadrement de tout ça. Hein ? Résultat, donc, le texte qui sert de base aux négociations de Genève qui débutent aujourd'hui, les parties entre crochets, signalant les points de désaccord, représentent la quasi-totalité du document. Ok, les pays sont d'accord sur rien. Les pays producteurs ont décidé de se coordonner pour remettre sur la table quasiment tous les sujets. D'autre côté, il y a des pays qui veulent avancer. Hein, à Nice, au sommet de l'ONU sur l'océan à Nice en juin dernier, une centaine de pays engagés ont signé le Nice Wake Up Call for an Ambitious Plastic Treaty, appelant à l'adoption d'un traité ambitieux. Si énormément de questions restent à régler, à commencer par la définition même d'un produit plastique, est-ce un produit avec du plastique ou dont le principal matériau est le plastique ? C'est l'article 6 qui sera au cœur des négociations, celui qui prévoit de réduire la production, principal moyen de restreindre la pollution à venir. Hein, parce que ça semble évident comme ça, mais la meilleure façon de réduire la pollution plastique, c'est d'en produire moins. Voilà. Pain brioché, merci pour le deuxième mois. Alors que du côté de l'industrie du plastique, moi j'ai vu émerger un discours qui est de plus en plus « Ouais, en fait, on va recycler de plus en plus, on va créer des filières, vous inquiétez pas, voilà, de nouvelles façons de produire aussi moins polluantes. » Tu vois, il y a un côté un peu... comment on dit ça White... comment on dit? Tu sais? Merci. Greenwashing, exactement. Tu vois, en mode, vous inquiétez pas. Nous, industriels, on est responsables. Ouais, voilà. Tu te fais tatouer comme on s'est même eu au The Event. Bah, t'inquiète, je gère, voilà, exactement. Techno-solutionniste, il y a un peu de ça aussi. Voilà. Donc, voilà. Alors que les pays qui veulent qu'on avance disent, non, il faut d'abord réduire la production, quoi. Les pays récalcitrants sont bien évidents contre cet article, hein, vous l'avez bien compris. Hein, ils vont s'employer à essayer de transformer ce texte en un simple traité de gestion des déchets plastiques. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Bon, je vous le dis, hein, il y a quelques mois, on m'a proposé une OP pour communiquer sur ce sujet. Alors, officiellement, c'était pour mettre en avant le recyclage des déchets plastiques. Donc, quand tu lis très vite le truc, tu dis « Ok, très bien, on me propose de communiquer » dans le cas d'une opération commerciale, pour promouvoir le recyclage. Et quand tu regardes, quand tu cherches un petit peu, bah, tu te rends compte qu'en fait, cette opération, elle est promue par les industriels du plastique, qui se présentent comme vertueux, en disant, mais nous, on est des gentils, vous savez, on va tout faire pour faire progresser la filière recyclage, quoi. Mais tu te dis, c'est pas carré-carré, ça. Donc voilà, bon, évidemment, j'ai dit non à l'OP, parce que je trouvais pas ça... m'interrogeant sur le sujet, je me suis dit c'est pas forcément la meilleure idée, ça. Voilà. À Écosystème, c'était cool, ça c'était bien, ça, Écosystème. Mais ça c'était autre chose. C'était un vrai truc de recyclage. Voilà. Donc j'ai dit non à ce truc. Merci Pain Brioché pour le deuxième mois. C'est pour ça que je connais un peu le sujet, parce que du coup je l'avais un petit peu creusé à l'époque. Les pays récalcitrants sont bien évidemment contre cet article. Ils vont s'employer à essayer de transformer ce texte en un simple traité de gestion des déchets plastiques, bon, on a compris. Ils seront pour cela appuyés par les puissants lobbies du plastique. Tiens donc. Hein. Voilà, ils possèdent certaines filières anti-plastique pour changer le discours de l'intérieur. Exactement, Xart. Moi, je me suis interrogé là-dessus. Est-ce qu'il faut faire confiance à ces gens, à cette filière du plastique, par exemple en France, là, qui ont effectivement des branches, des filières anti-plastique, tu vois, tu as envie de dire, bah oui, c'est bien ça, mais tu vois, voilà, je me suis interrogé là-dessus. Dans le doute, j'ai préféré pas faire. Merci Soul First pour le deuxième mois. Ils seront donc appuyés par les puissants lobbies du plastique à Busan. 220 représentants des secteurs des produits chimiques et des combustibles fossiles ont été identifiés. Voilà, les lobbies, quoi. Plus nombreux que les délégations de l'Union européenne et de tous les États membres réunis. Leur position était aussi renforcée par les États-Unis. Quelque part là. Et Trump qui arrive là. Notre grand militant écologiste. Alors, président Donald Trump favorable à un retour au plastique. Bon, bah voilà. Bon, voilà. A même symboliquement signé dès les premiers jours de son mandat la réautorisation des pailles à usage unique dans son pays. Bah oui. Bah voilà. Tiens, il est de tous les coups, lui. Hein. Dès qu'il y a un truc qui va pas, il est dedans. Comme le dit Sissim, il est toujours dans les bons plans, il ne déçoit jamais. On n'est jamais déçu, hein, par Donald. Il tape tellement sur l'environnement, sur l'écologie, c'est juste incroyable. Autre point de crispation, l'établissement d'une liste de produits chimiques jugés problématiques et l'inévitable question du financement. Les pays du Sud, soutenus par la Chine, estiment que les pays riches qui ont historiquement bénéficié d'activités industrielles liées à la production de plastique doivent payer. Ces derniers rappellent quant à eux que le plastique est majoritairement produit aujourd'hui dans les pays en développement. Chacun se renvoie la balle, un grand classique. Voilà. On ne peut pas avoir exactement la même vision que pour le réchauffement climatique, puisque ceux qui sont aujourd'hui responsables de la pollution plastique ne sont pas exactement les mêmes, dit une source européenne. Ouais. Ouais, donc les pays du Sud disent, dis donc les pays du Nord, là, vous avez bien profité une époque, donc c'est vous qui allez payer. Et les pays du Nord disent aux pays du Sud, ouais, mais aujourd'hui c'est vous qui produisez le plastique surtout. Du côté des négociateurs, on admet que la possibilité de parvenir à un consensus sur le texte est assez réduite. C'est pourquoi de plus en plus de pays font pression pour soumettre ce texte au vote, option contre laquelle les pays producteurs sont vent debout, puisqu'ils devraient alors subir un traité qu'ils n'ont pas négocié. Voilà. Donc est-ce qu'il faut un consensus ou est-ce qu'il faut un vote? C'est le débat. C'est à la présidence onusienne des négociations que revient cette décision. Si les négociations aboutissent, soyons un petit peu optimistes ce matin, une fois le traité signé et adopté, l'objectif sera ensuite de mettre en place des conférences des parties, les fameuses COP, comme pour le climat. Ce sont eux qui le produisent, mais c'est toujours l'Occident qui en consomme le plus. Oui, Runsi, t'as raison. Si l'Occident ne consommait pas autant de plastique, les pays en développement n'en produiraient pas autant. Oui, je pense qu'on ne peut pas te donner tort. Donc des COP, comme pour le climat, qui permettent aux signataires de se réunir régulièrement afin de travailler à la mise en œuvre du texte. Ouais. Eh ben on n'est pas sorti de l'abysse, comme dit Oscar Tillage. Alors regardez, on parlait du recyclage. Notre capacité de recyclage réel ne dépasse pas les 1%, nous dit dans le Figaro Nathalie Gontard, directrice de recherche à l'INRAE Montpellier, experte sur les biomatériaux plastiques. Elle dit en vrai, notre vraie capacité de recyclage, c'est 1%. Le Figaro dit, mais il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui avancent des performances de recyclage bien supérieures à 1%. Et elle répond, cette spécialiste, c'est parce qu'on confond recyclage et décyclage. Si on regarde les statistiques, plus un pays dit recyclé, plus il consomme en réalité de plastique vierge. Donc plus il pollue. Le décyclage consiste non pas à reconstituer le même objet, mais à le transformer en toute autre chose, sans le décontaminer, sans le régénérer. Une bouteille, par exemple, va devenir un vêtement ou une chaise de jardin. Mais le Figaro dit, ben, c'est ce que je suis en train de me dire d'ailleurs. Redonner une utilité aux déchets, c'est bien, non? C'est mieux que rien? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non, c'est pire. Merde. Bon, j'apprends des trucs. Non, c'est pire. Ça donne l'impression qu'on a résolu le problème de pollution alors que la chaise ou le polaire vont continuer à émettre des micro- et nanoplastiques, parfois même davantage, car le plastique est déjà bien dégradé. Ça alors? On stocke donc juste du déchet sous une autre forme. Ensuite, pour décycler, on a besoin de nouveaux débouchés. Et dans la plupart des cas, on remplace des matériaux qui ne posaient pas de gros problèmes environnementaux par du plastique. Enfin, en investissant dans ces usines de décyclage, on crée une dépendance aux déchets plastiques nécessaires pour les alimenter et les rentabiliser. Intéressant. Attends, mais cette dame, elle est passionnante. Pourquoi ne parvient-on pas à un vrai recyclage? C'est dû à la nature même du plastique, contrairement au verre et au métal, c'est un matériau qui bouge, qui se dégrade, qui interagit fortement avec toutes les molécules qu'il va rencontrer, notamment toxiques. Décontaminer ce plastique-là, le régénérer, autrement dit reconstruire des chaînes de molécules qu'il constitue, sont des procédés très coûteux d'un point de vue économique, mais aussi environnemental. Donc pour la plupart des produits en plastique, ce ne sera jamais rentable. Eh ben, cette dame est en train de nous dire que le mieux, c'est de pas produire de plastique. Hein, si je comprends bien. Même le plastique biosourcé, parfois estampillé biodégradable, est dit que c'est pareil, c'est du caca. Ce plastique pollue tout autant. Alors là, c'est bien, hein? Oui, mais ok, mais le plastique déjà produit, elle en fait quoi, cette dame, en fait? Eh ben, tu le manges, chérie, tu le manges. Hein? Tu le manges. Non, je sais pas, t'as raison, c'est une bonne question. Tiens, bah, l'article continue. Le recyclage ne sera-t-il donc jamais la solution, même si on invente un jour un procédé miracle capable de recycler tous les plastiques parfaitement? Tiens. On n'empêchera pas la pollution plastique car cette dernière commence dès la production. Tiens donc! Les micros, les nanoplastiques présents dans l'environnement viennent en grande partie de produits en cours d'usage. Isolants de bâtiments, lavage des vêtements, des pneus, des routes. Il s'agit d'un héritage empoisonné sur des millénaires déjà largement constitués. Plus de 10 milliards de tonnes de plastique s'accumulent sur Terre, 4 à 5 fois plus que le poids total de la biomasse animale. Bon, 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 bon. Eh ben, pour résumer, on n'est pas dans la merde. Merci Profitroll pour le prime. Alors là, le Figaro, bravo, hein. Je m'attendais pas du tout à un dossier aussi complet, carré et alarmiste sur la question du plastique dans le Figaro. Bravo, hein. C'est pas terminé. Hop, les conséquences sur la santé, vamos. Les plus petites particules capables de pénétrer dans nos organes et notre cerveau. En février dernier, une étude publiée dans la revue Nature Medicine est venue confirmer les craintes de nombreux spécialistes. Les microparticules les plus fines, issues de la dégradation des plastiques, réunissent à pénétrer dans le cerveau humain où elles s'accumulent avec un impact encore mal connu sur le fonctionnement des neurones. Je pense que mon niveau stock bronze sur Valo, ça vient sans doute du plastique. Ça expliquerait tout. Les chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique ont réalisé 50 autopsies et ont retrouvé des particules de plastique dans 100% des cerveaux analysés. Les personnes mortes en 2024 étaient plus contaminées que celles décédées en 2016, ce qui laisse penser qu'avec une pollution mondiale qui augmente, le problème ne peut que s'aggraver. Et parmi les effets possibles sur le cerveau, les spécialistes craignent notamment une augmentation du risque de démence neurodégénérative comme Alzheimer. Ce qui expliquerait aussi pas mal le ton de cette revue de presse. Au départ, il y a quelques décennies, on pensait que la pollution plastique était juste un problème de gros débris qui flottaient dans l'océan, qui menaçaient les animaux marins, voilà, comme les tortues qui s'étouffaient avec des sacs plastiques. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait aussi les microparticules issues de la dégradation de ces plastiques qu'on retrouve à l'intérieur des organismes marins, comme les moules, comme les poissons. À partir de ce moment, on s'est posé des questions sur l'impact potentiel de cette pollution sur la santé humaine. On a trouvé des microplastiques dans les poumons, le foie, le cœur, les reins, dans le placenta, le sang. Et le cerveau, bien protégé pourtant derrière la barrière hémato-encéphalique, la plus hermétique du corps humain, ne fait donc pas exception à la règle. Quel impact sur notre santé? Alors ça, on n'est pas sûr. Soyons carrés. L'une des grandes difficultés, c'est qu'il est impossible de réaliser des études épidémiologiques chez l'homme pour tenter de mettre en évidence des dangers potentiels. Et là, on est dans la rigueur scientifique. Il y a des inquiétudes, mais il n'y a pas de certitude. On ne sait pas déterminer le niveau d'exposition d'un individu aux microplastiques, contrairement à la pollution de l'air, où on peut comparer des populations exposées à d'autres qui le sont moins. La plupart des études sont donc réalisées sur des souris en faisant ingérer aux animaux des quantités contrôlées de microparticules et en observant les effets biologiques que cela produit. Face à l'intrus, le plastique, donc la cellule, va activer plusieurs types de mécanismes qui, quand elles sont suractivées, peuvent déclencher en réaction certains types de maladies, une réaction au plastique. Parmi les effets néfastes soupçonnés ou partiellement prouvés chez l'animal, hein, soyons prudents, figurent entre autres des cancers du côlon ou du poumon, des maladies inflammatoires de l'intestin, des cirrhoses, des affections cardiovasculaires. On s'est au départ focalisé sur les risques des microplastiques contenus dans l'alimentation, mais on se rend compte aujourd'hui que la quantité qu'on inhale en respirant est en fait une source d'exposition plus importante. Ok. Tu respires du plastique. Une étude française publiée fin juillet dans la revue PLOS ONE a notamment mis en évidence la très forte présence de particules de plastique dans l'air intérieur. Ces débris microscopiques représentent d'ailleurs une partie non négligeable de la poussière, le reste étant des fragments de peau morte. Bon. Des inquiétudes, pas de certitude sur les conséquences de la santé. Voilà, il faut arrêter de respirer. Et là, si vous respirez plus, tout va bien. Voilà. Alors, comment limiter? Regardez, le Figaro va très loin dans ce dossier, hein. Comment limiter son exposition quotidienne aux microplastiques? Voilà. Si les conséquences pour la santé ne sont pas encore parfaitement claires, cela constitue une source de préoccupation chez de plus en plus de scientifiques, on l'a compris. Nous nous présentons quelques solutions pour tenter de limiter votre exposition. Let's go, on y va. Privilégiez l'eau du robinet. Voilà. Robinet ce matin. La sénoise, c'est vrai. Hier, j'avais une bouteille d'eau au plastique. J'ai lu le dossier, finito. Un des premiers gestes simples à adopter est d'arrêter de boire de l'eau contenue dans des bouteilles en plastique, car leur emballage, tout comme leur bouchon, peuvent libérer des particules dans l'eau. Elle est horrible? Ça va pas, on se baigne dedans maintenant. Tu es fou, quoi. Il en va de même pour les bouteilles en verre, d'après une étude cofinancée par l'Agence de sécurité sanitaire ANSES et la région Hauts-de-France. Il vaut mieux privilégier celle du robinet si vous vivez dans une zone où l'eau est potable. Attention tout de même, l'eau du robinet n'est pas complètement exempte de microplastiques, mais elle en possède beaucoup moins. Si vous avez la possibilité de la microfiltrer, c'est préférable. Pour le transport, une gourde en acier inoxydable ou en verre en privilégié, réutilisable sans plastique et durable. Alors, le robinet, pas partout, effectivement. Je crois que les régions françaises sont un peu. Il y a une vraie inégalité sur la qualité de l'eau du robinet selon les régions. Ouais. Compliqué, ça. Attendez, si on ne peut pas boire d'eau du robinet et d'eau de bouteille en plastique, qu'est-ce qu'on fait? La bière, le coca, je vous lis, hein. De la bière, du vin, on était sûr. Bière, la bière beaucoup, hein. Vous êtes beaucoup bière. Hein. Ah, bière. À la source en montagne, ah bah voilà. Et directement à la source. Ah non, l'eau de pluie n'est pas une option non plus car les microplastiques plastiques se retrouvent également dedans. Ok, d'accord. Bon, bref, on est foutu. Tout va bien. Gare aux micro-ondes. La cuisine est un autre terrain où les microplastiques s'invitent en toute discrétion. Chauffer des aliments dans des contenants en plastique, notamment en micro-ondes, est une source importante de contamination. Des recherches datant de 2023 ont révélé que le chauffage de ce type de récipient peut libérer jusqu'à 4,22 millions de microplastiques et 2,11 milliards de nanoparticules en 3 minutes seulement. Voilà. Donc évitons. Voilà, par exemple, tu fais chauffer un truc au micro-ondes dans un truc en plastique et tu manges directement dedans tout ça. Enfin, voilà. Bon. Et des chercheurs américains ont également montré que les microplastiques sont également en très grand nombre dans les produits alimentaires hautement transformés. Pour minimiser les risques, il est préférable, pardon, de cuisiner à la maison. Utiliser des ustensiles en inox, en bois, en verre pour éviter les plastiques au micro-ondes. Les sachets de thé. Merde! Putain, moi qui étais mis au thé. Les sachets de thé sont aussi connus pour être une source importante de microplastiques. Les pasta box, tout ça, exactement, finito. Évitez les fruits de mer. Bon, 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 il nous reste rien, les gars, il nous reste rien. Une large partie de la faune marine est contaminée. Ce plastique se retrouve dans la chaîne alimentaire, dans le corps des poissons, des fruits de mer, dans le sel marin. Les chercheurs pointent particulièrement les organismes filtreurs qui filtrent l'eau, comme les moules, les huîtres, hein, qui filtrent l'eau pour se nourrir et donc qui ingèrent de grandes quantités de microplastiques. Donc les huîtres, les moules, désolé les gars. Le thé en sachet, les pasta box, les aliments ultra transformés, les huîtres, les moules. Pour limiter l'exposition, il pourrait donc être plus judicieux de privilégier des poissons plus petits, qui ont une durée de vie généralement plus courte et qui accumulent donc moins de substances toxiques. Attention aux poussières intérieures aussi. Les microplastiques sont très présents dans la poussière intérieure. Passez l'aspi, moi je vous le dis, moi. L'aspi, là. Hein? Les paresseux du ménage, là. Ces particules peuvent facilement se retrouver dans nos voies respiratoires, d'où l'importance d'une bonne qualité de l'air intérieur. Pour ce faire, il est essentiel d'assurer une ventilation régulière par l'ouverture des fenêtres et en contrôlant la poussière par un nettoyage régulier. Eh oui, je vous le disais. Ainsi, il pourrait être préférable d'utiliser un aspirateur équipé d'un filtre HEPA, High Efficiency Particle Air. L'aspi qui aspire, quoi. Donc, chasse à la poussière, les gars. Moins de fibres synthétiques, c'est les fringues. Polyester, nylon, acrylique, non. Ça libère plein de microplastiques dans l'environnement. Privilégions le coton, le lin. Moi, c'est coton, moi. Full coton. Évitez les revêtements de sol en vinyle, les peintures à base de plastique. Choisissez des matériaux naturels, le bois, le liège, l'argile, le carrelage, les finitions à base de chaux. Les cosmétiques, pour ceux qui se maquillent. Bien que des progrès aient été réalisés sur certains produits comme les exfoliants, les détergents abrasifs, les produits de soins personnels continuent de contenir des microparticules de plastique. D'après la Commission européenne, des produits vont être progressivement interdits le temps que les entreprises trouvent des solutions moins polluantes. Ok, bon attention quoi. Bon, hé, alors là, moi je dis bravo le Figaro qui nous fait un dossier. Bon, un peu alarmant, hein, un peu alarmiste, qui fait un petit peu peur. Bon, qui met en évidence l'inquiétude des scientifiques sans preuve avérée, mais qui se demande si effectivement tout ça va avoir des impacts sur la santé humaine délétères. Voilà, et qui nous montre que cette production, que la solution est évidemment dans la baisse de la production de plastique. Voilà, et maintenant vous comprenez pourquoi il y a un énorme sommet qui s'ouvre à Genève, là, pour plusieurs jours. Moi je dis GG le Figaro. Et c'est aussi la une de Libération ce matin, avec un coup de projecteur sur les larmes de sirène. C'est les microbilles de plastique, hein, qui sont souvent la base de tous les objets en plastique. Voilà. Symptôme d'une pollution de contrôle, les billes issues du pétrole envahissent notre environnement. Voilà. Fléau. Article d'Alexandra Schwarzbrod. On va peut-être pas tout lire parce que je vous laisse à midi, à 13h30. Ne vous fiez pas à leur nom, que l'on croirait tout droit sorti d'un récit de la mythologie grecque. Les larmes de sirène ne sont que de vulgaires granulés de plastique. Il y a une photo là, on voit, c'est ça là. Qui, en se déversant dans la mer par millions, tue une partie de la faune sous-marine, se disperse sur les plages et en se répandant dans les cours d'eau, pollue les fleuves et les rivières. Pourquoi ce thème fait l'actu en ce moment? Je viens littéralement de le dire il y a 5 secondes, puisqu'il y a un énorme sommet mondial qui s'ouvre à Genève. Manifestement, certains ont du plastique dans les oreilles. Désolé, j'étais obligé. Produits par les géants de la pétrochimie, de l'américain ExxonMobil au français Total Energy, ils sont transformés sur les mers du monde entier par conteneurs à destination des fabricants d'objets en plastique. On les trouve donc sur l'ensemble de la planète. Et ces larmes-là ne représentent qu'une partie de la pollution plastique. Après avoir été produits à l'aide des granulés, puis utilisés par les consommateurs, objets et sacs en plastique se retrouvent bien souvent déversés dans la nature, absorbés une fois décomposés par les animaux ou végétaux que nous avalons à notre tour. Quand on sait que l'équivalent d'un camion poubelle rempli de plastique est rejeté chaque minute dans les océans, on imagine l'ampleur du fléau mondial. Pourtant, il y reste très difficile à combattre. Les représentants de près de 180 pays se retrouvent à partir de ce mardi en Suisse pour tenter de légiférer, mais la puissance des lobbies de la pétrochimie, ce qu'on a vu dans le Figaro tout à l'heure, est telle que les débats risquent de se retrouver une fois de plus dans l'impasse. S'ils ont une grosse part de responsabilité, ces lobbies, nous aussi, dit Libération. Merci Jox TV pour le prime. Notre bureau, notre sac, notre intérieur regorgent d'objets en plastique dont nous pourrions peut-être nous passer. Les bonnes résolutions de rentrée peuvent commencer là, histoire d'avoir la sensation de garder un peu de pouvoir, même s'il peut paraître illusoire. En attendant, il faut lire ce magnifique roman de la rentrée littéraire, hein, quoi? Bon, là, elle part sur autre chose. Ok. C'est fou, hein? Oui, je sais, le plastique, c'est fantastique, le caoutchouc, super doux, Elmer Footbeat, oui, tout. Ah, c'est fou. Hein, les gens m'en parlent depuis 1 heure. Oui, je vais vous passer la chanson. Ah là 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 là, Edmer. Le plastique, c'est fantastique. Ah oui, bah oui. Oui, bah oui, tout le monde connaît. Oui. C'est vu, c'est 1990, toute ma jeunesse.
Fini les longs trajets, juste.
Toi, tais-toi, la pub. Pourquoi vous l'avez pas? Pourquoi vous l'avez pas? Bizarre, attends. Ah, voilà. Oula. Bon, il nous faut le refrain là. Le plastique, c'est fantastique. Elmer Footbeat, bon, c'est un classique. Voilà. J'en ai à tous les vieux du chat depuis tout à l'heure qui m'en parlent. Hein, voilà. Sauf qu'ils ont refait, ils ont réécrit cette chanson il y a quelques années en disant le plastique, justement, c'est plus fantastique. Attends, comment s'appelle la nouvelle chanson? Le plastique, c'est dramatique. Ils l'ont refait. Voilà, je vous mets la nouvelle version. Voilà, de 2019. Bon, ils ont vieilli, hein. C'est bien, hein?
Lorsqu'il est temps de passer à l'action, prends tes copains, remue-toi la culotte. Si tu veux aller nettoyer les gros fonds, d'abord il faudra des bateaux écolos, toute une flotille pour nettoyer les eaux.
On attend le refrain. Pas mal, hein? Voilà. Et donc, ils ont refait ça. Voilà. Mignon comme tout. Bon, j'étais obligé de passer par là parce que quand même une partie du chat qui me harcelait avec le plastique, c'est fantastique. Tout à l'heure, vous avez les deux versions. Voilà. Samuel, c'est vrai ou que tu es le grand-père d'Elydia? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Que des vraies informations sur cette chaîne. Bien sûr. Donc, voilà la référence que certains avaient dans le chat depuis tout à l'heure. Voilà. Et donc, vous lirez ce dossier dans Libération sur ces larmes de sirène qui alarme, hein, ces billes issues du pétrole, issues pour la fabrication des objets en plastique, mais qui s'échappent en masse des sites industriels, qui s'échouent sur les côtes, sur les berges, qui tombent parfois des bateaux qui les transportent. C'est une catastrophe, c'est un coup de projecteur de Libération. Voilà, qui parle également de ce sommet de la dite de la dernière chance à Genève qui s'ouvre aujourd'hui. Alors, une petite bonne nouvelle quand même que je vois dans Libération, là, depuis 10 ans, eh bien, en France, par exemple, on utilise moins de sacs en plastique. Vous savez qu'il y a une loi qui a été votée, donc vous voyez que parfois on arrive à faire évoluer les choses en bien. Après l'adoption d'une loi en 2016, l'utilisation de sacs plastiques en France a été divisée par 4. Bon alors, les gars, hein, comme quoi? Mais certains modèles perdurent en raison d'exceptions. Voilà, interdiction aux caisses dans les supermarchés dès 2016, dans les rayons fruits et légumes l'année suivante, prohibition de la fabrication de l'importation avec la loi anti-gaspillage de 2020, et pourtant, ils sont toujours là, les sacs plastiques. Alors, le Figaro dit, pardon, Libération dit, il y a des progrès à faire quand même. La baisse est réelle, mais incomplète. Fin 2014, les Français utilisaient 12 milliards de sacs plastiques fins. En 2023, on est arrivé à 3,2 milliards divisé par 4. On est mieux que la moyenne européenne. Let's go, c'est nous. Estimé à 66 sacs par personne en 2022, nous on est à 46 sacs désormais les Français par an. Voilà. Certains s'en sortent mieux que nous. La Belgique, 4 sacs par personne. On est à 46 sacs les Français, les Belges, 4. Les Belges du chat, bravo. Merci Jox TV. Ouais, les Belges, ils sont à 4. Je pense qu'ils portent les trucs dans leurs mains comme ça. Bravo. La Pologne, 7. Les Polonais du chat, bravo. Voilà. Le Portugal, les Portugais du chat et les Portugaises, bravo. 13. Voilà. Mais on est en dessous de la moyenne européenne quand même. Oui, enfin, les Belges sont moins nombreux que nous aussi. Bon, évidemment, on parle d'une moyenne par habitant. Cyril a mis un capa, mais on serait bien passé de ce trait d'humour. Après, il y a des gens dans le chat qui disent ça, qui disent « Ah oui, c'est pas bête ce qu'il dit Cyril. Ah oui, ils sont moins nombreux aussi. » Arrêtez de désinformer les viewers, là. Faites des efforts, bordel. Donc, il y a un essoufflement. Parce qu'il y a beaucoup d'exceptions à la loi. Voilà. Seuls certains types de sacs ont été strictement interdits. Les sacs dits légers qu'on trouvait à la caisse, vous savez, avant, là. Voilà. Mais d'autres sacs circulent. Des sacs plus épais, souvent opaques, vendus quelques centimes en caisse, restent autorisés. Vous savez, c'est les sacs qu'on vous vend, là. Ils sont censés être réutilisables, mais beaucoup les jettent après un seul usage. Ouais, c'est dommage. Il y a eu quelques exceptions comme ça. Voilà, donc... Et puis, autre chose... Certaines pratiques commerciales s'apparentent à de véritables tromperies. Composition, épaisseur, caractère compostable. Des fabricants mentent sur les caractéristiques de leurs produits. Il n'y a pas assez de contrôle. Voilà. Alors, il y a un spécialiste là, qui est un toxicologue, Xavier Coumoul, qui détaille les conséquences de la pollution plastique sur la santé humaine qu'on a évoqué dans le dossier du Figaro tout à l'heure. Voilà, moi je vais à la fin parce que ça m'intéresse. Vous-même, avez-vous changé votre manière de consommer quand vous avez découvert les dangers du plastique? Il dit, je ne bois plus que de l'eau du robinet. Donc lui, même si effectivement l'eau du robinet n'est pas parfaite, il dit que c'est quand même mieux que l'eau en bouteille. On est bien obligé de boire de l'eau. Hein. J'achète mes pâtes en vrac, même si le conteneur du magasin est en plastique. Je prends même une marque de dentifrice qui utilise un contenant en aluminium. On n'est pas obligé de changer toutes ses habitudes d'un coup, mais on peut se questionner petit à petit lorsqu'on achète tel ou tel produit. Je sais que ça ne va pas changer grand-chose pour la planète, mais essayer de se mettre dans une dynamique positive au quotidien, c'est mieux, et personnellement, ça me fait du bien. Voilà. Voilà. Et le scientifique rappelle que, à la question de « est-ce que la preuve de la nocivité de cette exposition au plastique pour la santé humaine est faite ?», il répond, comme tout scientifique sérieux, « pour l'heure, on a établi que des associations, pas encore de lien de causalité. » Voilà. Pour cela, il faudra attendre le résultat d'études épidémiologiques et expérimentales cohérentes. On a des soupçons. Voilà. Bon, les amis, je vous invite à lire le dossier du Figaro qui est excellent et le dossier de Libération qui est excellent ce matin sur le sujet. Je bois l'eau du bain que vend Sam sur son OnlyFans. Exactement. Pour l'exclamation OF, vous avez les photos. Et depuis peu, effectivement, ça vend l'eau du bain. Je ne savais pas que certains avaient déjà acheté. J'espère que vous en êtes satisfait. Ouais. Salut la petite potière. Même pas un petit Perrier, trop de plastique? Bah, petit Perrier, il y a du caca surtout, non? Une arnaque, j'ai reçu que de la mousse du bain. Ah oui, mais c'est parce que t'as pris. Il y a différents abonnements, Étienne. T'as pris le. Il y a des abonnements. Le premier abonnement, c'est la mousse. Mais si tu veux l'eau, c'est plus cher. Bon, voilà pour. Pour ce sujet. Oui, t'as dit que ça a essayé l'eau du bain de Samuel Etienne pour faire du riz, ça donne un petit fumet tout à fait agréable. Ok. Lorenza, c'est mieux que le Perrier. Oh, oh oui, Lorenza, c'est mieux. Attends, j'espère qu'il n'y a personne qui bosse chez Perrier dans le chat, là. Ok. Deuxième sujet de ce matin. La drogue. Attends. À chaque fois que je parle de drogue, les gens me disent: Ah, la drogue c'est mal, il y a une rêve que j'ai pas. Qui a dit la drogue c'est mal?
J'ai pas la ref en fait.
Ah, c'est South Park. Ah, c'est South Park. Ah bon? Ah, ça vient de là?
Droguer. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez.
Mais c'est génial. C'était ça la ref en fait.
Ne te comporte pas en sale môme trop gâté. Je veux bien t'acheter le handybook de Toshiba. Sinon je t'achète rien du tout.
Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez.
Je n'avais pas la ref. Non, je connaissais pas. Mais j'ai pas trop regardé South Park, moi.
Putain, ok. Il y a pas mal de gens qui considèrent.
Excusez-moi, il y en a d'autres qui sont partis là. Il a de bons arguments, c'est vrai. Alors moi, je vais vous parler de la drogue ce matin, parce que la drogue, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais. Voilà, on va commencer par l'humanité. Voilà. Non, mais en vrai, il y a un truc qui va pas du tout. Là. Franchement, désolé, hein, c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, mais on changera les idées avec un peu de musique à la fin. Un narcotrafic sans frontières se développe en France. C'est dans l'humanité, c'est page 7. Un rapport confidentiel. Bon, il n'est plus tellement confidentiel, on en parle ce matin. De l'Office français anti-stupéfiant dresse un constat alarmant de l'état du trafic de substances illicites sur le territoire français, désormais l'un des pays d'Europe les plus touchés par le phénomène. C'est un document à diffusion restreinte de l'Office français anti-stupéfiant paru fin juillet sur l'état de la menace liée au trafic de stupéfiants en 2025, produit grâce au concours de plus de 30 administrations et services français que Le Monde et France Info, et on va aller lire Le Monde tout à l'heure, ont pu consulter. Voilà, ils ont eu accès au truc, quoi. Impossible, Darmanin a été ministre de l'Intérieur pendant 7 ans, me dit Syscom. On valide la blague. Trafic illicite en pleine expansion avec un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. Ah ouais, quand même. Si le cannabis tient toujours le haut du pavé, la baisse du nombre de saisies réalisées en 2024 semble démontrer une certaine stabilité sur le cannabis. La consommation de cocaïne, elle, a explosé. Mais qui sont ces gens qui consomment de la cocaïne en France ? Je ne connais pas de gens qui consomment de cocaïne. Quand tu vois les chiffres, t'as l'impression que tout le monde consomme de la cocaïne. Qui consomme de la cocaïne? Je ne connais pas de gens qui consomment de la cocaïne. Dans les soirées, énormément de gens. Ah, bah c'est peut-être pour ça alors. Les animateurs télé, je n'ai jamais. Alors il y en a sûrement, mais je n'en ai jamais vu qui en prenait. T'en connais, tu ne sais juste pas. Ah, tu crois? Ils me le disent pas. Beaucoup plus de monde que tu penses, malheureusement. Ils vont pas te l'avouer, hein? Va dans n'importe quelle cuisine de resto, t'en trouveras. Ça ne m'étonne pas, j'ai beaucoup de collègues de travail qui en consomment. Mais pourquoi? J'en connais plein, il y a plein de gens qui font ça, me disent tout. Scotty Cool. Ma grand-mère tous les matins. Oh, dis à ta grand-mère d'arrêter, j'ai puc. Tu en connais, mais c'est juste qu'ils ne te le disent pas. Mais pourquoi? Vous faites pas du bien à votre tête et à votre corps. Enfin, je le dis naïvement, mais je le pense très fort. Pourquoi? On peut vivre sans, non? Arrête de les couvrir, Sam. C'est ça, j'arrête. Ils veulent fuir la réalité de leur vie. Ah bon? C'est fou que ça devienne banal, dit Étienne. Ben oui. 10 ans d'agence de pub parisienne, j'en ai connu plus d'un, hélas, me dit Nawal Paris. Bah, j'ai envie de se faire, mais pourquoi? Mais non, mais il faut pas, mais non, mais ne prends pas cette merde, enfin. Tu te niques le corps, tu te niques l'esprit. Enfin. Bois donc un petit café. Ok. Ne consommez pas ce truc, bordel. Respectez votre cerveau, respectez votre corps, enfin. Allez vous droguer au sport, enfin. Ça aide à tenir quand t'as une vie effrénée et demandante. Bah, vie effrénée, on l'a donnée ici. Oui, votre nez est un temple, exactement, SDF. Jouer à Valorant. C'est très bon, très bien ça comme addiction. Lisons. MDR, même argument que la drogue, c'est mal là. Ouais, j'avoue. Donc, lisons. Donc, la consommation de cocaïne a explosé en 2023. Pour la première fois, presque un adulte sur 10 déclarait avoir expérimenté cette drogue au moins une fois en France. Soit 3,7 millions de personnes et près de 3% on avait consommé une fois dans l'année. 3%, c'est pas non plus... Soit 1,1 million d'usagers contre 600 000 en 2017, ça monte. Les saisies de cocaïne en France ont atteint en 2024 des niveaux records, 53 tonnes, plus 130%, devant celles des drogues de synthèse MDMA, Ecstasy, 9 millions de comprimés. Saisies. Relativement épargnée jusqu'en 2020, la France est subitement devenue un des pays européens les plus touchés. C'est ça qui est inquiétant. Parce que qui dit consommation dit trafic aussi. Hein. Et qui dit trafic dit violence. Dépassant ses voisins traditionnellement plus concernés, comme la Belgique et les Pays-Bas. On est passé devant nos voisins. Hein. Et en France, plus aucun territoire n'est épargné, plus aucune couche de la société n'est préservée. 173 villes françaises ont été touchées par les violences liées au trafic du stupéfiant, contre 161 en 2023, en tête de liste Marseille, bien sûr. Grenoble, Toulouse, mais aussi de plus en plus des villes moyennes, Villeurbanne et Chirol, Dijon, on en a parlé ces derniers temps. Cela malgré la baisse du nombre de points de deal. Un recul qui s'explique par des pratiques nouvelles, les lieux de vente habituels ont été remplacés par l'utilisation d'appartements en location de courte durée ou par les systèmes de boîtes à clés sécurisées. En 2024, la drogue pénètre sur le territoire par toutes les frontières, par tous les moyens, avions, bateaux, semi-submersibles, véhicules, personnes, fret, explique le rapport. La plateforme aéroportuaire parisienne subit une pression sans précédent. Autre constat très inquiétant, l'OFAST déplore l'utilisation désormais quasi systématique de la violence pour asseoir l'hégémonie. Consommation, trafic, violence. L'appropriation de territoires accroît la criminalisation de la vie quotidienne, érige. En fait, cette drogue, elle pourrit aussi nos rues, quoi, nos quartiers. Hein. Érige la violence, les profits criminels en contre-culture, obérant lourdement les politiques de la ville et l'intégration sociale. Elle marginalise les citoyens prisonniers des territoires contrôlés, remet en question le fonctionnement régulier des services publics et privés. En allant jusqu'à offrir dans certaines communes de menus services, courses, bricolage pour dédommager les habitants des nuisances dues au deal, les trafiquants exercent un véritable pouvoir local, pouvoir social, on est en France, hein, au risque de déstabiliser les institutions. C'est fou.
C'est fou.
Je vous lis un petit peu, puis on va lire un gros dossier, parce que là, c'est un petit dossier, mais il y a un dossier... Dans Le Monde, c'est la une du Monde. Regardez. Drogue des réseaux de plus en plus menaçants. Voilà. Et c'est page 6-7. L'offre de drogue désormais sans zone blanche. Je ne sais pas si j'aurais utilisé zone blanche comme expression pour parler de... Peu importe. Entre l'Espagne et la France, le trafic jusqu'à saturation. Il faut faire une vraie répression des trafiquants, me dit la flèche bleue, et attaquer les consommateurs au porte-monnaie. Je connais deux hommes collègues qui en prennent. On bosse dans la grande distribution, me dit Petite Pierre. Ce n'est pas normal d'avoir la boule au ventre en rentrant chez soi, en se rendant dans un commerce, dans un quartier où les trafics de drogue sont établis. Oui, Sarah Lin, oui. J'habite pas loin d'un point de deal, me dit Pedro Luc. On a le droit à quelques coups de feu assez souvent. Pour le moment, pas de blessés. Sans parler de l'ubérisation de la drogue. Oui, Chocolatine, t'as raison. Incroyable. Salut, Onzocool. Onzocool nous dit, je pense plutôt que la consommation de drogue est liée à d'autres problèmes. Je pense principalement à la pauvreté. Bah, sauf qu'en fait, c'est un coût quand même, non? Et puis l'article qu'on vient de lire dit que ça touche toutes les couches de la société, modeste comme riche. S'attaquer aux trafiquants et aux consommateurs ne résoudra pas le problème principal. Merci en tout cas de ta contribution. Ça coûte cher, non ? la seule solution viable, la légalisation et la vente contrôlée. Alors Mario de Pametal, moi je suis tout à fait d'accord pour le cannabis, marijuana, tout ça, mais... Et les autres drogues alors? Qu'est-ce qu'on fait pour les autres drogues? Aucune différence, on va tout légaliser. Tu veux légaliser la coke, l'héro, l'exta, le speed, toutes les drogues chimiques? Ah non, non, c'est pas une solution, les gars. Déjà qu'il y a un vrai débat à avoir en France sur la place de l'alcool dans notre société et sur le fait que cette drogue légale soit aussi peu encadrée, c'est pas pour en rajouter d'autres, hein, si je puis me permettre. En légalisant le cannabis, la police pourra se concentrer sur les autres drogues comme dans les pays civilisés, me dit la crampe. Ah ben moi, sur la légalisation du cannabis en France, moi je suis pour l'expérimentation, comme nos voisins allemands sont en train de le faire, je suis tout à fait d'accord. Hein. Tout à fait d'accord. Mais les gens qui disent, oh ouais, ben faut autoriser la drogue, de toute façon on autorise bien l'alcool, je dis, bah non, justement, l'alcool, il faudrait l'encadrer en France plus. Malgré les lobbies qui ne veulent pas entendre parler de ce débat. Hein? L'alcool ne doit pas être un argument pour laisser circuler la drogue. L'alcool, il y a un problème aussi avec la drogue, mais c'est aussi un problème. Je vous lis. Hein. Je vous lis. Hein. C'est très intéressant parce que. Beaucoup de gens l'apprennent au travail aussi pour booster leur efficacité. Donc au final, on ne doit pas réellement gérer les drogues, mais améliorer le pays, ça montre un mal-être du pays, tant au travail que mentalement. Mais enfin, qu'il y a un mal-être au travail en France, je veux bien l'entendre, moi, on est bien d'accord. Mais il y a quand même des gens ici dans le travail, dans cette communauté qui travaillent et qui travaillent beaucoup, et qui sont impliqués dans leur travail, et parfois dans des jobs qui ne les intéressent pas forcément, et qui donnent tout ce qu'ils ont, même si c'est pas très agréable. Mais il faut quand même éviter ces produits stupéfiants qui te niquent la santé quand même. Et qui nourrit des réseaux criminels violents, quoi. Enfin, l'excuse me paraît un petit peu rapide quand même. Si tous les gens qui marnent au boulot et qui se défoncent au taf prenaient de la drogue, ça se saurait, non? Enfin, je juge pas, hein. J'essaie de comprendre. En tout cas, merci pour vos participations. J'avoue que c'est un sujet sur lequel j'ai pas beaucoup bossé, moi, la drogue. On peut pas résoudre un problème global en critiquant les actions individuelles. Oui, t'as raison, pour avoir un barbecue, je suis tout à fait d'accord. Oui, de toute façon, c'est pas un mot, c'est pas un bon positionnement de s'en prendre aux consommateurs. C'est pas comme ça que ça marche. Tu as raison. C'est pas en jugeant les comportements individuels qu'on va régler le problème. Oui, je suis d'accord. Oui. Débat complexe, hein. Qu'est-ce qu'on fait alors? Merci, Sodam Craft. En tout cas, légalisation, cannabis, marijuana en France, comme nos voisins allemands le font à titre expérimental en ce moment, oui, hein, ça se tente. Hein. pour voir si effectivement ça ne permet pas de mieux accompagner les consommateurs avec un produit contrôlé, vérifié, en baissant une partie du trafic et en redirigeant le travail des services de police et de justice vers les drogues les drogues dites dures. Ça oui. Président 2027, on fait ça direct. Non, moi légalisation, pas dépénalisation, je suis pour la légalisation. Et d'ailleurs, je suis dans l'attente de papiers, de dossiers, de reportages sur ce qui se passe en Allemagne, parce que en Allemagne, ça a été mis en place il y a quelques mois, et moi j'attends d'avoir un retour sur expérience là. Pour l'instant, j'en ai pas encore. Okay. Bon, intéressant. Est-ce que dans le monde, il y a des infos sur justement sur d'éventuelles solutions? Non, c'est plus le constat de l'augmentation du trafic, quoi. C'est très axé sur le trafic, en fait. Même si la presse régulièrement essaye d'aller un peu plus loin, hein. Notamment, il y a eu pas mal de papiers sur l'expérimentation allemande là, quand ça a été lancé. Hein, c'était une des. Un des engagements de la coalition au pouvoir. Bon. On aura l'occasion d'en reparler. Bon, merci en tout cas de votre participation très active à ce débat. Les décodeurs du monde avaient fait un dossier sur la légalisation du cannabis dans un pays entraîne-t-elle forcément une hausse de la consommation? Un jour, on fera un gros dossier là-dessus. Les chiffres sur quelques années de dépénalisation au Canada, me dit Azazu, montrent une stabilité de la consommation, mais un meilleur fléchage financier de la lutte. Ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. Allez, actu suivante. Désolé, hein. Je vous lâche à 12h30 ce matin, puisqu'on est à 13h30, pardon. Je vérifie. Ouais, parce que j'emmène les enfants à la gare qui partent en vacances chez leur grand-mère. Ouais, c'est ça. On a été un peu embêtés par les histoires de hackers ce matin. J'ai dû cut le stream pour vérifier des trucs. Alors, après la drogue, je vais vous parler de. Ah, Bayrou! Bayrou sur YouTube. Le YouTuber François Bayrou. Ah ouais? Putain, c'est drôle ça. Tu les lâches dans la gare comme ça? Ben non, 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 c'est quelqu'un les emmène vers leur grand-mère. Tiens, tigre! Alors, il est où le Bayrou? Il est page 5. Bayrou, le YouTuber. Bayrou vend son budget sur YouTube. Vous vous rappelez, on avait fait un react au début de l'été, depuis la Corse. On a fait react en direct de ces annonces quant au projet de budget qui va être débattu au Parlement à la rentrée. Le Premier ministre lance aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est de l'actu, les tutos de Bayrou, exactement, Axos. Une série de vidéos pour expliquer le tour de vis présenté mi-juillet. Sans majorité, cerné par ses opposants, François Bayrou cueille les Français à chaud dans la torpeur de l'été avec objectif de les prendre à témoin, mesdames et messieurs. Ce mardi à 17h, je sais que vous serez sur la chaîne YouTube du gouvernement, hein, les coquins, là, 17h. Hein, vous attendez ça avec impatience. Le Premier ministre, selon nos informations, va lancer un podcast appelé FB Direct. Tiens, on va aller sur le site du gouvernement, là. Ils ont une page YouTube. Là. Normalement, ça devrait être là, je
Mais
pense.
en fait, c'est une dépression postpartum, faut vous faire soigner.
C'est un renversement presque de l'existence.
Hein, quoi? C'est autre chose, ça. Alessandra Sublet. Mais elle n'est pas devenue actrice, Alessandra Sublet? Ah, c'est sur la dépression postpartum. Ah, c'est hyper important, ça. Alors, donc la chaîne du gouvernement, vidéo YouTube. Ok, il n'y a pas d'annonce vidéo. Ok. Devenir parent. Il brise le tableau de la dépression postpartum. Mais qu'est-ce que ça fait sur le site du gouvernement, par contre? Non, c'est une... non, le sujet est hyper intéressant, mais...
Mais en fait, c'est une...
Allez, enquête, enquête. Pourquoi sur le site du gouvernement? C'est une... Non, mais c'est bien, mais c'est une... c'est un genre d'OP. Derrière les souris, il y a parfois la solitude, le burn-out parental. 15 à 20% des femmes font une dépression postpartum. Ça, c'est très important d'en parler. Les pères aussi peuvent être touchés. Dans cette vidéo, Alessandra Sublet, Mathilde Planche, Anna Roy et le docteur Canameras témoignent sans filtre. Charge mentale, isolement, culpabilité et temps de briser le silence. C'est quoi? Vous connaissez? C'est la campagne sur la santé mentale? Ah bah c'est bien. Mais ça manque un petit peu d'infos. Enfin, moi j'aime bien savoir que... Quelle est la source, dans quel cadre ça s'inscrit, parce que est-ce que c'est une parole officielle? Parce que c'est quand même sur le site du gouvernement. Ah, parlons santé mentale. Mais qui produit ça? C'est le gouvernement, c'est l'État? Ça. Nous qui aimons bien avoir, savoir d'où viennent les choses. Voilà, comme le dit Osweet, une description détaillée n'aurait pas été de refus. Il me manque ça. C'est bien, hein, mais fait par qui? Payé comme... Voilà, un peu d'infos, quoi. Parce que moi, je vois des visages de, je vois quand même des visages de France Télévisions sur ce, dans cette vidéo là. Ok. Dans le... Ah, peut-être dans le générique de fin. Bon, on va se taper la pub.
Ma voiture. Vendezvotrevoiture.fr peut vous le dire.
En prison, tu payes une nana 100 balles, tu lui donnes un poignard, tu dis vas-y. C'est comme ça, moi j'en ai vu hein, des cadavres qui repartaient de...
C'est Florence Cassé,
fait,
ça.
C'est une dépression, une préparation à la part. De parler, liser, de ne pas avoir fait quelque chose. On se retrouve très bientôt pour une prochaine Agora. Merci de nous avoir suivis.
Ouais. Ah, c'est une campagne officielle. D'accord, ok. Je découvre ça. Oui, oui. Alors, le sujet est vraiment important, mais je suis étonné de la forme, en fait. Ça ressemble quand même à une émission de télévision. Mais c'est clairement un produit gouvernemental, quoi. Ok, ok. C'est quoi, Agora, vous connaissez? Mais c'est quoi Agora? C'est une émission de télé? Non, je trouve pas l'info, ouais. Non, non, c'est pas, non. C'est un truc de dépistage, de... ouais, mais un truc. Ici, on aime comprendre un petit peu, quoi. Bon, bon, en tout cas, le sujet est super intéressant, mais... Mais justement, c'est pas la première. Bon, il manque juste un peu de transparence. On aimerait savoir. Là, on aimerait savoir en fait qui nous parle, d'où. Voilà, c'est un réflexe un peu habituel, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, le sujet est très important. Bon, pourquoi on était sur lui? Ah oui, parce qu'on voulait savoir. Voilà. Bon, à partir de, a priori, ce sera. Mais il y a plein de trucs comme ça. Jarry. Il y a plein d'animateurs, là. Je vais retrouver ma pomme là-dedans, moi. Non, je vais m'en trouver là-dedans, moi. Ok. Bon, en tout cas, a priori, ce sera sur le site YouTube du gouvernement. On revient à l'article. Ok. Donc, Bayrou, sur YouTube. Donc, un podcast appelé FB Direct, FB François Bayrou, dans lequel il leur parlera de l'infernal budget 2026 dont tant et tant prédisent qu'il fera tomber son gouvernement. Le premier numéro sera consacré au cadre général, vous l'attendez avec impatience, et à la nécessité de désendetter le pays, doivent suivre quotidiennement des épisodes, parce qu'il y aura des épisodes thématiques, revenant sur les difficultés engendrées par la dette abyssale, les solutions qu'il propose pour y faire face. À partir de la semaine prochaine, les internautes pourront en outre lui adresser leurs questions. Bah, c'est interactif! C'est génial! Auquel il répondra en différé. Ah, en différé. Ouais, défécateur, toi aussi, t'étais un peu surpris par la forme de ce truc? C'est en différé. Voilà. Oui, ça s'appelle FB direct, ça s'appelle. Et les réactions sont en différé. Non, bah, c'est normal. Ce serait, franchement, ce serait. Vous mettez un chat sur un truc comme ça, ce serait d'une violence inouïe, quoi. Il faudrait 600 000 modérateurs, ce serait une dinguerie. En vrai, non mais on peut comprendre le concept, quoi. À partir de la semaine prochaine, les internautes pourront en outre lui adresser leurs questions auxquelles il répondra en différé. Voilà. Peut-être par lettre, par fax. En somme, l'hôte de Matignon se charge lui-même du service après-vente de la potion amère qu'il a présentée mi-juillet pour tenter de redresser les comptes publics. C'est un moment si crucial que je ressens le besoin de parler en direct avec les Français, dit-il. Bon, j'ai l'impression que ce ne sera pas vraiment en direct. Pour que chacun d'entre eux, personnellement, se forge une opinion, confie François Bayrou à notre journal. Je n'ai pas l'impression que la classe politique soit, sauf exception, et sur le point d'assumer cette responsabilité, mais les Français peut-être. Et comme on a tout le mois d'août et le début du mois de septembre, on a une période de temps qui peut être utile à une telle prise de conscience. Donc, pendant vos vacances, hein, vous allez nous consommer les petits clips de François Bayrou, de FB Direct, pas en direct, en différé, et vous aurez peut-être des réponses par la poste. C'est bien fait leur truc. Une communication directe. Mais arrêtez! Non, ce que vous entendez par communication directe, c'est sans passer par les médias, sans passer par les questions des journalistes. Comme ça, tu peux dérouler ton truc. Donc, communication directe sans passer par les journalistes qui peuvent poser des questions qui parfois énervent un peu. Et direct parce qu'il n'y a pas de filtre, mais pas direct parce qu'en revanche, tu vas pas jusqu'à faire que les Français puissent t'interpeller, quoi. Hein? Parce que c'est un petit peu en différé quand même. Qu'il voit comme une mise de pratique de son slogan « Jamais sans les Français ». Et dont il pense, malgré la chute de sa cote de popularité et l'impopularité des mesures présentées, quel est le seul moyen de faire comprendre la nécessité de ce tour de vis à l'opinion. Une manière de contourner le débat politique miné par les griefs de ses alliés critiques et surtout par les coups de boutoir de ses adversaires, à commencer par le RN et le PS qui ont déjà promis de le censurer. Pour celui qui compare ce budget à son Himalaya, une ultime offensive avant d'entrer dans la zone de la mort, comme disent les alpinistes. Rien compris à la fin. Vous avez regardé, vous, le truc de les clips de Bayrou sur YouTube? Ou pas? Non? Non, non, oui. Non, non. Vous voulez que je le réacte? J'ai l'impression que... Pour m'endormir, peut-être. Non. T'embête pas avec ça. Bon, en même temps, c'est il a déjà fait lors de l'intervention de début juillet, hein. Bon, Déficator nous fera des réacts, ok. Ok. Bon, intéressant cette volonté d'utiliser, en tout cas de la part du gouvernement, les nouvelles plateformes pour communiquer directement avec les Français, sans passer par les médias, mais sans passer manifestement par le chat non plus, puisque c'est quoi la phrase? À partir de la semaine prochaine, les internautes pourront en outre lui adresser les questions auxquelles il répondra en différé. Merci beaucoup pour cette initiative de fou. Et sans transition, parlons de moi. Hein, parlons du péril vieux. Voilà, encore un dossier dans la presse sur la baisse du taux de natalité, la baisse du nombre de naissances dans notre pays, le fait que notre pays vieillit, voilà, qu'on sera tous bientôt un pays de vieux croûtons et de vieilles croûtonnes. Cette fois, c'est l'opinion qui s'y colle. Le taux de fécondité se rapproche du seuil en deçà duquel le non-renouvellement des générations devient irréversible. C'est au mois de mai, je crois, en France, il y a eu plus de morts que de naissances. Voilà. Un enjeu européen, voire mondial, qui alerte le gouvernement. Vous avez la courbe ici. Les naissances en rouge, les décès en bordeaux. C'est en train de se rejoindre. Comment ça, y a qu'à voir l'âge des streamers, ça grimpe fort? Hein? Quoi? C'est un ami qui dit ça en plus? Comment ça? Non, ça c'est la France, c'est nous ça. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès en France a dépassé le nombre de naissances. Cette inversion de la pyramide des âges met en péril le financement du modèle social. Eh oui, moins de cotisants. C'est compliqué pour financer notre modèle de financement de protection sociale qui est basé justement sur la solidarité intergénérationnelle. C'est comme ça. C'est le pari qui a été fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, c'est devenu très compliqué avec la baisse du nombre d'actifs par rapport à la population dite inactive. À la recherche de solutions pour remettre la courbe dans le bon sens, c'est là où il faut réarmer la France, disait le président Macron. Le chef de l'État a chargé la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, de lancer une stratégie nationale à l'automne. Alors là, je suis très dans l'attente de voir cette stratégie, quoi. Relancer le taux de natalité d'un pays. Il y a plein de pays qui ont essayé. Ils n'ont pas réussi. C'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est une décision, on en a beaucoup parlé déjà ici, avoir un enfant, c'est une décision éminemment personnelle, subjective, personnelle, qui est liée à son parcours de vie, à ses valeurs, à son rapport à l'actualité, à son rapport au couple. Voilà. Il est très compliqué pour un État de décréter, un État démocratique en tout cas, hein, qu'il faut subitement faire des enfants, quoi. On pourrait faire comme les pandas du zoo qui ne se reproduisaient pas, ils leur diffusaient des vidéos pour les inciter. Moi, président, dans tous les programmes télévisuels et toutes les vidéos diffusées sur une nouvelle plateforme, que ce soit YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, eh bien, il y aura des vidéos de cochonceté choisies avec soin pour inciter les Français et les Françaises à faire crack boom U comme le chantait le chanteur. Comment il s'appelle déjà ? Crack boom U, les filles en tombent à mes genoux. Comment il s'appelle ? Dutronc. Exactement. Jacques Dutronc. Plus sérieusement, moi j'ai hâte de voir ces mesures parce que c'est quand même très compliqué cette histoire. Bientôt, 2 ans après l'appel au réarmement démographique, 2 ans déjà l'appel au réarmement démographique, la France a basculé du mauvais côté de la courbe de la natalité. Entre mai 2024 et mai 2025, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances, une première depuis la Première Guerre mondiale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, pardon. Désormais, le renouvellement des générations n'est plus assuré, c'est tout le financement du modèle social français qui menace de s'effondrer. Bon, ça c'est une vérité, hein. Je vous l'ai déjà expliqué. Avec une pyramide des âges inversée, tous les systèmes de redistribution deviennent plus durs à financer. Ça l'entend dans l'entourage du chef de l'État. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir prévenu notre pays. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force et moins vrai depuis quelques années, disait Macron dès janvier 2024. Mais je ne pense pas que ce soit une question qui soit réglable par des discours, par des appels. Dès 1945, le général de Gaulle lançait une mise en garde contre les risques d'une baisse de la natalité dans le pays. Si le peuple français ne se multiplie plus, et on n'est pas des lapins non plus, hein, la France ne peut plus rien être qu'une grande lumière qui s'éteint. Oula. On est bien d'accord, Tenry, je suis d'accord avec toi. À sa suite, presque tous les présidents de la République se sont inquiétés à leur tour. François Mitterrand, 83, il n'est de grand peuple que celui qui croit à la vie, qui se renouvelle sans faiblesse démographique. Jacques Chirac, 96, la vitalité démographique, tiens, qui m'écrit ? Oh, Europe 1. Ah, il est gentil, lui. Ah, le club de l'été, c'est bien ça, c'est une émission que j'ai présentée sur Europe 1. On verra ça tout à l'heure. Sarkozy 2012, un pays où on fait des enfants est un pays qui a de l'avenir devant lui, l'investissement le plus gratuit. Hein, quoi ? C'est pas gratuit un enfant. Jusqu'à Emmanuel Macron et son réarmement démographique, donc premier président de la République confronté à la réalité d'un retournement démographique. Mais comment inverser la courbe ? Bah oui, Europe 1 après, c'est ça, et Bolloré, je sais. Comment inverser la courbe ? C'est la question. Avec la natalité, les politiques avancent dans le brouillard. C'est un sujet sur lequel il faut être d'une humilité extrême. Même les plus grands spécialistes ont du mal à expliquer ce qui conduit à une baisse de la natalité. Eh oui. Les causes sont toujours mystérieuses et multifactorielles, avance un proche du chef de l'État. Difficile de mesurer l'efficacité des mesures lorsqu'elles ne produisent leurs effets qu'à très long terme. C'est le cas pour le congé de naissance, pour le plan de lutte contre l'infertilité, l'accès facilité à la procréation médicalement assistée, la PMA, toute lancée par Emmanuel Macron, mais pas encore toute concrétisée. Seule certitude, les mesures décidées par François Hollande n'ont pas aidé. Ça, c'est vrai, ça. François Hollande. De la baisse du quotient familiale à la mise sous condition de ressources d'allocation de rentrée scolaire. Pour tenter de remettre la courbe démographique dans le bon sens, Emmanuel Macron cherche de nouvelles pistes. Après, je vous lirai vos pistes, parce que je sais que dans le chat, certains ont les réponses. Le chat a réponse à tout, c'est ça qui est beau. Le chat sait, enfin, il y a des gens dans le chat qui savent. Mi-juillet, il a réuni à l'Elysée un aréopage d'experts en démographie et natalité, une réunion d'écoute pour faire un point de situation, un tour d'horizon des propositions. Une nouvelle réunion est programmée pour la journée, cette fois pour les arbitrages politiques. Le chef de l'État se renseigne. Sa ministre de la Santé, Catherine Vautrin, c'est la dame ici, s'est déplacée en Italie fin juillet pour étudier les programmes de soutien à l'enfance et à la famille lancés par Giorgia Meloni.
Ok.
Allons voir ce que l'extrême droite italienne a fait. Bah, je plaisante, si on peut plus polémiquer. Pour tenter de relever le taux de fécondité de 1,18 enfants par femme contre 1,6 en France, ils sont à 1,18 en Italie. La première ministre italienne a déclaré la mobilisation générale à coup d'aide sociale et de défiscalisation. Sans succès probant à ce jour, c'est ce que je vous disais, c'est extrêmement dur pour un État, pour un gouvernement, de relancer la courbe de la natalité. C'est une question éminemment individuelle. Tout comme en Hongrie, où malgré une politique nataliste volontariste, depuis le retour de Viktor Orban au pouvoir en 2010, le taux de fécondité stagne. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, le centre droit italien, bien sûr, Corneflex, bien sûr. On le connaît, le centre droit italien. Bien sûr. Alors le Premier ministre hongrois accélère. Ça fait les bruitages sur cette chaîne aussi. À partir d'octobre, il va supprimer à vie les impôts pour les femmes à partir du troisième enfant.
Quoi ?
À partir d'octobre, le Premier ministre hongrois va supprimer à vie les impôts pour les femmes à partir du troisième enfant. Mais go faire un troisième enfant et go aller vivre en Hongrie, bordel! Qu'est-ce qu'on attend? J'appelle Hélène. C'est fou! Ah, c'est que pour les femmes? Ah! Ah, que pour les. Ah, que pour Hélène! Hein? Ah! Ah ouais, je me disais aussi. Je savais bien qu'il y avait un piège. Ouais. L'année prochaine, ce sera à partir du deuxième enfant. Sans certitude de voir la réalité de repartir à la hausse. C'est incroyable. Ce casse-tête démographique n'est pas que français, c'est aussi un enjeu européen, voire mondial. Tous les pays développés sont concernés par la baisse de la natalité. Bon, ça peut nous consoler. Hein, tout le monde est touché. Insécurité économique, vous avez raison d'en parler, bien sûr. Difficulté de logement, oui, évidemment. Report de maternité lié à la carrière, moindre désir d'enfant. Les causes de la crise démographique se nichent dans tous les recoins de la vie quotidienne. Voilà, c'est pas qu'une question d'alloc, c'est pas qu'une question d'impôts. C'est le tout, c'est l'insécurité économique, c'est le logement, le coût du logement, c'est l'âge d'un premier enfant qui arrive plus tard aussi, parce que les femmes font de plus en plus d'études supérieures, et heureusement d'ailleurs. Voilà. Alors parallèlement, Catherine Vautrin a envoyé des courriers à plusieurs pays. Oh, bon ça va, on est sauvés. Notamment en Corée du Sud ou au Japon, pour s'enquérir des mesures mises en place et de leur efficacité. Ouais, bon le Japon c'est une catastrophe. Hein. Pas sûr que la solution vienne de là-bas. Hein. Je vais à la fin du papier. Selon les experts, si le taux de natalité descend en dessous de la barre des 1,3 enfants par femme, on est à 1,61 je crois, alors le non-renouvellement des générations devient irrémédiable. Sauf à recourir à l'immigration. Autant dire que cela revient à sauter à pieds joints dans le débat mortifère sur le grand remplacement, s'alarme un proche d'Emmanuel Macron. Le président de la République a toutefois un peu de marge avant d'en arriver là. Si la natalité décroche dans l'Hexagone, la France demeure en tête des pays européens. Et encore loin du seuil fatidique d'un vieillissement irréversible de sa population. Allez, je vous lis. Il faut un nouveau jour férié dédié à la reproduction, me dit Ico. Dis donc, dit May, un peu de respect, bordel. Moins de cocaïne, plus d'enfants, me dit Starlong. Voilà, ce sera mon programme en 2027, ça. Alors, après, on peut avoir une réflexion de fond. Flotte, c'est fou comment le capitalisme a fait de la baisse de la natalité une catastrophe. En fait, c'est une catastrophe par rapport au système qu'on s'est choisi post-Seconde Guerre mondiale de protection sociale. Notre système de protection sociale, notre système de, notamment de retraite, un système solidaire où ce sont les cotisants, les actifs, qui payent les retraites de ceux qui sont partis à la retraite. Donc là, on a un problème pendant un petit moment, puisqu'on a beaucoup de retraités et pas beaucoup d'actifs. Donc pour le coup, alors, c'est moins un choix capitaliste qu'un choix de société, qui est plutôt socialiste d'ailleurs, plutôt un projet de gauche d'ailleurs, décidé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais sauf que quand la pyramide des âges se modifie, ça ne fonctionne plus, quoi. Voilà. Donc est-ce que ça passe par moins donner aux retraités, baisser les retraites, diminuer les retraites? Diminuer les retraites de qui? De tous les retraités? Que des plus riches? Dans quelle proportion? Est-ce que les salariés doivent cotiser plus? Est-ce qu'il faut créer de nouveaux impôts pour toutes ces années de transition? Voilà. Est-ce qu'il faut taxer les plus riches, les grosses fortunes? Dans quelle proportion? Voilà. Ce sont des réponses politiques. Ah oui. Nexilien dit, mais du coup, ce problème va disparaître quand tous les baby-boomers vont passer l'arme à gauche. Non, c'est plus une question sur comment gérer ce problème temporaire. Oui, je suis assez d'accord avec cette analyse, sauf erreur de ma part. Sauf si le taux de fécondité en France continue de baisser. Parce que là, aujourd'hui, on a donc, en gros, pas assez d'enfants, pas assez d'actifs, trop de retraités. Mais si le taux de natalité continue à baisser en France, le problème se poursuit. C'est-à-dire qu'on a toujours pas assez d'actifs et de jeunes pour trop de vieux. Donc c'est un phénomène provisoire si le taux de natalité reste là où il est. Sauf qu'il était à 2,1 il y a quelques années, il est à 1,61 aujourd'hui et il va continuer à baisser. Donc moi aussi j'avais tendance à penser que c'était un sujet provisoire, mais un provisoire qui va durer quand même quelques dizaines d'années. Hein, mais manifestement, peut-être pas. Donc, quand même un souci dont il faut s'occuper, quoi. Faut repousser l'âge de la retraite pour régler ça. Bon, arrêtez. Bah, oui, ça va. Moi, je vais m'arrêter, moi. Je suis fatigué. Hein. Voilà, il faut améliorer le taux d'emploi des jeunes, qui est une catastrophe en France. Il faut améliorer le taux d'emploi des seniors, déjà. Voilà. Il faut... compliqué. Ternalis, un modèle qui fonctionnait il y a 75 ans n'est peut-être plus le modèle qui nous convient aujourd'hui. Plutôt que de revoir le modèle, on persiste sur un modèle défaillant. Perso, on pourrait me donner 1 million d'euros les avantages fiscaux, ça ne me ferait pas changer d'avis sur mon choix de ne pas avoir d'enfant. Voilà. Et rappelons d'ailleurs que le choix d'avoir un enfant est un choix individuel, que personne ne doit être jugé sur son choix d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Voilà. Tu ne veux pas d'enfant, personne ne doit le commenter, personne ne doit émettre un avis là-dessus, personne ne doit le juger. Tu vas avoir un enfant, deux enfants, trois enfants ou plus, même chose. C'est un choix personnel. Les autres, fermez vos gueules. Voilà. Occupez-vous de vos fesses, c'est le cas de le dire. Pour 50 balles, je te fais un enfant perso. Ok, Starlong, c'est les soldes, hein? Sauf si ça risque de mettre en péril tout le système à terme. Oui, c'est une question individuelle. Voilà. Alors après, transformons notre société pour qu'on ait plus envie de d'avoir des enfants avec un avenir un peu plus optimiste, un peu plus radieux. Voilà. Je crois que c'est la meilleure façon de donner aux gens envie éventuellement d'avoir des enfants, bah, c'est de créer une société, un monde qui donne un peu plus envie de cette aventure-là. Qui est une magnifique aventure, mais qui est une aventure. Bon, après, moi, ça n'est qu'un exemple individuel, qui n'est donc pas un exemple, hein, qui est juste le fruit de mon parcours, de mes valeurs, de plein de choses de ce que j'ai ou pas dans le crâne. Moi qui consomme l'actualité tous les jours depuis toujours et qui est au courant de ce qui ne va pas dans notre monde, bon, bah, moi j'ai décidé d'avoir des enfants. Voilà. C'est une forme de pari. Mais ça ne vaut rien, c'est juste mon expérience individuelle à moi. Voilà. Mais, de la même manière que je ne juge pas ceux qui ont des enfants, pas d'enfants, plus d'enfants, moins d'enfants, pas d'enfants, et de la même manière que mon exemple n'est pas un exemple justement, je ne veux pas être jugé là-dessus. Voilà. C'est mon choix. C'est pas l'émission de télé, ça, d'ailleurs. Tégolec. Augmentation des revenus des plus pauvres dans notre pays. Sinon, mort de la joie et de l'enfance en France, ce serait tant mieux parce que bien mérité. Une société inégale et injuste ne mérite pas les joies de l'enfance. La France est triste par rapport à son propre choix. Et c'est ça, Evelyne Thomas, ouais. C'est vrai, Malo, tu as raison. Malo dit, tu as mine de rien l'aisance financière qui pèse sur la balance. Tu as raison. Tu as raison. Tu as évidemment raison. Bien sûr. J'ai eu beaucoup de chance professionnellement et donc matériellement. Et c'est beaucoup plus simple pour moi de faire ce choix. Évidemment. La dimension économique dans cette décision est essentielle. Alors vous avez raison de soulever un paradoxe. Le paradoxe, c'est que en moyenne, plus on a de sous, moins on en fait. Le taux de fécondité, enfin le nombre d'enfants dans les familles modestes est plus élevé que dans les familles riches. C'est vrai. Bon, ça revient à dire que ça n'est pas le seul élément décisionnaire, quoi. J'ai eu peur du message de Ximperial. Le message disait j'ai 29 ans et 12 ans ma copine. Non, non. Non. J'ai 29 ans, 12 ans avec ma copine. Le début de ton message m'a vraiment fait flipper. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Je suis ingénieur commercial, ma compagne est chargée de com, nous faisons partie de la classe moyenne, mais un enfant coûte extrêmement cher. Ben oui. Je rêve d'avoir des enfants, me dit Odette, moi. Odette Ruy, moi, l'anus. Odette Ruy, moi, l'anus. Très joli pseudo. J'aurais d'avoir des enfants. Malheureusement, ma situation économique ne me permet pas d'envisager d'en avoir. Pour le moment, j'ai 29 ans. Ouais. La santé mentale joue, bien sûr. Ah oui, Sean. Bah oui, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé ce matin. Et les pseudos. Ah oui, les pseudos sont étranges ici, oui. Mais bon, c'est le charme de Twitch. Moi, j'ai des enfants, c'est du boulot. Ouais, Sarah, mais c'est le plus beau des boulots quand même. C'est quand même ces petits humains là, à la maison qui courent dans tous les sens, qui foutent le boxon, c'est quand même formidable. Mes parents et mes grands-parents m'ont toujours dit que c'était chiant et qu'il fallait pas en faire. Bon, alors ça dépend du modèle familial, effectivement. Là, on met le doigt sur autre chose, là aussi. Tes parents et tes grands-parents t'ont dit que c'était chiant d'avoir des enfants? À toi, qui étais donc leur enfant? Ah oui, ça donne pas tellement envie, ça. C'est sûr, hein. Merde. Oui, j'ai choisi de l'ignorer pour protéger le petit frère. Bah, force. Après, à l'époque où tu vivais aisément avec un salaire, ça aide peut-être à se projeter, à faire les enfants, s'en occuper. Aujourd'hui, ça coûte bien trop cher de s'en occuper, de travailler en même temps. C'est vrai. C'est vrai. Bon, les amis, on a eu déjà beaucoup de fois ce débat, parce que c'est pas le premier débat sur le premier dossier article qu'on lit sur le sujet. Voilà, mais c'est un sujet qui me semble essentiel quand même. 35 ans, pas d'enfant, j'ai du mal à me projeter dans la vie à 10-20 ans, non seulement dans le point de vue économique, mais également social. Difficile de trouver une personne avec qui se voir indéfiniment. Je spoil, en fait, c'est impossible de se projeter à 10-15 ans. Tu ne sais pas ce que ton avenir professionnel sera fait, de quoi sera-t-il fait dans 10-15 ans, tu ne sais pas comment on va évoluer ton couple dans 10-15 ans. Bah, de rien, il y a toutes mes forces. Mais c'est vrai, en fait, le couple, c'est un pari. Le couple, c'est un pari. À un instant T, tu es bien avec une personne et tu fais le pari, en te mariant par exemple, ou en signant un pacte, ou bref, en t'engageant d'une manière ou d'une autre, que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous serez toujours OK pour être ensemble. Le couple est un pari. Après, ce pari, tu peux le rendre plus ou moins facile à réaliser, avec beaucoup d'écoute, en acceptant que l'autre change, évolue. L'autre ne va pas rester celui que tu as rencontré. À un instant T, il va évoluer, tu vas évoluer, vous allez évoluer. Et là, ce qui peut aider à faire que ça fonctionne, c'est à minima un dialogue permanent, l'écoute de l'autre. Voilà. Et créer une famille et avoir les enfants, c'est aussi un pari. Et tu ne peux pas savoir ce qu'il y aura dans 3 ans, dans 5 ans. Tu ne peux pas savoir comment seront tes enfants. Tu ne sais pas s'ils vont être faciles à gérer ou pas. Tu ne sais pas comment tu vas être en tant que père ou mère. Tu ne sais pas si tu vas être un. Ça n'existe pas les bons parents, il n'y a que des mauvais parents, mais il y en a qui sont moins mauvais que d'autres. Tu ne sais pas si tu vas accompagner décemment tes enfants sur le chemin de la vie, voilà, tu vas faire ton maximum, mais c'est tout ça, c'est un pari. Voilà. Mais, alors ce sont des paris, comme tous les paris, extrêmement hasardeux, mais ce sont des beaux paris. Lucas de Lucky dit, imagine, tu as des enfants de droite. Mais mon avis, c'est que c'est vraiment un des plus beaux paris, quoi. Et que la vie, c'est aussi ça. Salut Samuel, pourquoi tu fais uniquement des matinées étiennes et pas des après-midi, des soirs, etc. Le matin, je peux pas regarder. Parce qu'en fait, les journaux sortent le matin très très tôt. Et puis, j'aime bien les lire tout de suite pour être sur l'actualité. Tu vois, les journaux, traditionnellement, les revues de presse, c'est le matin. Voilà. Et puis, voilà. Et puis parce que le. Voilà. C'est une réponse un peu lambda, mais voilà. C'est mon rendez-vous du matin, quoi. C'est pas toi qui auras les conséquences, mais ton gosse plutôt hypocrite comme pensée. Nightwolf qui est déchaîné ce matin. C'est pas toi qui auras les conséquences. Ah oui, donner la vie. Ah oui. Ah oui, ah oui, ça c'est l'argument de l'égoïsme absolu des parents, de donner la vie, alors qu'en fait, les conséquences de la vie, c'est ton gosse qui va. Les vivre, les assumer, et la difficulté de la vie. Voilà. Rappelons à Nightwolf 44, qui est très en forme depuis le début de ce stream, qu'avec cette pensée, tu ne serais pas là, mon petit ami. Voilà. Et que si tes parents n'avaient pas été égoïstes, pour reprendre hypocrite, c'est le mot que tu utilises, eh bien, tu ne serais pas là dans mon chat. Voilà. Donc merci à tes parents d'avoir été hypocrite et égoïste. Tu leur diras d'ailleurs, hein. Tu leur as peut-être déjà dit déjà. Tu leur as dit déjà? Ouais, c'est réglé, Darkness, merci. Je vais leur dire, t'inquiète, il est très en forme, Nightwolf. Mais depuis tout à l'heure, hein, c'est si. Je suis sur l'historique de Nightwolf. Alors, pas tout, hein, des petits bouts. Hein. On a voulu protéger les vieux pendant le Covid. Voilà le résultat. Qu'est-ce que j'ai encore? Attends, je remonte. Hein. Qu'est-ce que j'avais encore? Ah, mais non, c'était pas toi. Ah non, non, toi, c'était bien aujourd'hui. Ah non, c'était un autre pseudo, un peu comme le tien. Non, c'était assez apaisé. Non, pardon, Nightwolf, c'était un autre. Non, celui-là, on est dans la blagounette. Non, c'est un autre pseudo qui dit des dingueries depuis le début, c'était... mais c'est pas toi du tout. Je confonds les viewers exactement. Autant pour moi. Les lunettes, il y a un petit air de Cathy de la Compta. Ben, il y a un débat avec le chat depuis tout à l'heure. Moi, j'étais parti plutôt sur ça. Non, mais c'était pas toi, Netwolf. C'était un autre pseudo avec plein de chiffres. Et tu vois, c'est la vieillesse. Et la communauté, parce qu'elle est très gentille, elle est partie sur ça. Donc, voilà. Mais Cathy de la Compta... moi, je suis au milieu. Super Nani. Aussi, ouais. Bonjour, c'est pas important, mais j'ai fait une superbe tarte à la tomate. Si, c'est important. Quelle heure il est ? Bon, peut-être passer à la musique ? Bon, en tout cas, je me regarde avec vous. Merci. Ces échanges, même si on n'est pas d'accord ensemble, voilà. Et comment l'être, d'ailleurs. C'est super agréable de pouvoir échanger et de façon plutôt apaisée. Voilà. Et de s'interroger et de se poser des questions et pas forcément avoir la réponse à tout, même si dans notre, à notre époque, selon certains, il faut avoir absolument un avis sur tout et avoir des certitudes sur tout et tout savoir sur tout, etc. Et c'est épuisant. Lâchez-nous la grappe un petit peu. On ira tous mieux. Alors, est-ce qu'on finit avec la musique, je regarde. Ouais, je crois que c'est maintenant. Eh ouais, c'est ça, la musique. Tu ressembles de plus en plus à ton arrière-petite fille Elidia. J'adore. Musique, on finit avec de la musique. Oui, les problèmes de mot de passe, ça s'est réglé, merci beaucoup. Cathy de la Compta, une super copine, dites pas du mal, signée Josiane du CDI. Ok, ok. On finit avec de la musique. Le tableau de Tintin, c'est un cadeau de mon beau-papa qui l'a fait faire pour moi. On est page 7, page 21 dans le Parisien. Voilà, c'est les tubes de l'été. Alors, voilà, il y a un truc qui cartonne. Est-ce que vous connaissez ? Ça s'appelle Soleil Bleu. Voilà. C'est une chanteuse qui s'appelle Louisa, je crois qu'elle est d'origine brésilienne. Voilà. Attends, j'ai les infos quelque part là. Voilà. Franco-brésilienne, 30 ans. Vous connaissez ? Voilà. 30 ans, elle chante depuis toute petite. Voilà. Et puis elle a rencontré Antoine Parmentier, 26 ans, et Nino Ferding, 20 ans, qui ont formé le duo Bleu Soleil. Voilà, et ils ont fait un feat, quoi. La chanteuse, elle a grandi à Rennes. Elle est née à Rennes. Elle a fait de la musique depuis toute petite. Voilà, et je crois que c'est son premier tube, quoi. Vous connaissez ou pas ? Ah non, c'est pas Soleil Vert, c'est Soleil Bleu. Ah non, Soleil Vert, faut pas. Hein. Ça vaut pas patoche. Bah, rien ne vaut patoche. Et moi, je suis allé écouter ce matin. Eh ben, c'est pas mal. Soleil Bleu. Enfin, c'est mignon. Soleil Bleu. Vous connaissez ou pas ? Bah écoutez. Attends, je regarde l'heure là, par rapport aux enfants. Ça va. Regardez, je vous montre. Ça vous dit rien ? À quand le même article pour Marianne ? Oh, bien sûr, ce serait incroyable.
Fais des glaces steampunk.
Oh, j'en ai marre des pubs. Faut que je m'achète. Faut que je m'abonne là, non ? Alors, marrant cette pub, remarque. Écoutez, c'est pas mal. C'est bien. Bien moi, c'est bon, tu vois. Bon, je mettrai pas ça dans ma playlist de running. Hein, je ne suis pas la cible, comme dit Vision Elf. Mais je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est sympa. Voilà. Je ne suis pas la cible de Vision Elf à... Attends. Premier message dans ce chat, dans cette communauté, de Pierre Twitch. Est-ce que c'est Pierre Chabrier, on ne sait pas, qui est dit « Ça pue sa mère ». Vous voyez ? Ça n'est pas ton goût. C'est comme aux enfants, tu sais, quand ils aiment pas manger certains aliments. Non, tu ne dis pas ça n'est pas bon. Ça n'est pas ton goût. Pierre Chabrier, enfin non, Pierre Twitch, pardon. Ça pue pas sa mère. Ça n'est pas ton goût. C'est pas pareil. Bon. Pierre, bordel. C'est fou ça d'avoir le seum à ce point-là. Et donc, dans Le Parisien, il y a aussi un coup de projecteur sur les tubes de l'été. Qu'est-ce qui marche? Voilà. Comme dit Mister MB, je suis pas le public. Ben voilà, exactement. Voilà, c'est pas mon style, mais c'est entraînant. C'est ben oui. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est quoi les tubes de l'été? Donc, il y a Soleil Bleu de Louisa et Bleu Soleil. Voilà, qui est en tête des chansons les plus écoutées sur les plateformes de streaming. Voilà, donc ça s'écoute, quoi. Il y a Azizam d'Ed Sheeran. Voilà, qui cartonne. Azizam. Azizam, Azizam. Azizam. Connaissez ça? Quel acteur? Bon, je suis pas obligé de donner mon avis sur tous les trucs. Hein. Voilà. Je suis pas obligé de dire ce que je pense de tout à chaque fois. Hein. Parfois, je peux juste passer au truc d'après. Hein. Les titres urbains sont en retrait cette année. Côté francophone, seuls Que Black et Guy de Besbar se font une place dans le top 20 des chansons les plus diffusées sur les zones avec Melrose Place. Ok. Non, je suis pas obligé d'avoir un avis sur, sur tout. Hein, je... voilà. Melrose Place.
Pour ceux qui flânent fort, ah, c'est le premier play. Je peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, sorry, je suis pas dans ça. Ah, c'est le premier play. J'arrive dans pas long time. Ne colle pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place.
Hey, babe, viens voir la vie en vrai. Je connais pas ton ex, mais je sais qui va m'en vouloir.
On s'ambiance. Hein, voilà. Bon, voilà. Que Black et Guy de Besbar. Voilà. Bon, c'est, aucun de ces morceaux en fait ne correspond à ce que moi j'écoute, mais faut, voilà, il faut des chacun ses goûts, quoi. Voilà. Je ne sais pas si le rap est en recul, mais il est vrai que nos écouteurs, nos auditeurs nous en demandent de moins en moins, dit-on du côté de Fun Radio. C'était du rap là ? C'est du rap ?
Hey, babe, ici on connaît pas Kouma. On a des amis en commun.
C'est du rap ça ? C'est très large le rap, non ? C'est pas de la pop plutôt, non ?
Ils m'ont dit que t'étais dur, donc j'étais moi bon courage. T'inquiète, je vais tout payer. Hein. Oui, je vais tout payer.
Oh, écoutez, c'est pas mal. Ok. Voilà. Quelques succès se détachent quand même. Et notamment Chargeur de Triangle des Bermudes. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Avec des brrrr. Chargeur triangle. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? C'est qui ça ? C'est Valorant ? C'est un jeu vidéo, non ? C'est un jeu vidéo, non ? En fait, c'est le trailer d'un jeu vidéo, ça, je pense. Ok, c'est pas mal. Voilà, la musique urbaine peut aussi compter sur un fier représentant en la personne de Gims. L'artiste est particulièrement prolifique, puisqu'il a publié 14 titres depuis le début de l'année. Appelle ta copine, Do You Love Me, La Parisienne, Ninao. Bon, il paraît que tout ça, c'est des tubes, on va pas pouvoir tout écouter. Enfin, c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs tubes de l'été. Je me méfie toujours de cette expression. Les reprises sont aussi présentes à la radio, sur les plateformes, les clubs. DJ Snake a revisité Another Day in Paradise de Phil Collins. What ? Alors attendez, DJ Snake, pas mal ça. Très belle chanson, Another Day in Paradise très belle chanson de Phil Collins. J'ai hâte de voir la reprise. Live Edit, attends. Paradise. Ah, il y a du feat là. C'est lequel le bon ? Officiel vidéo. Alors ça, c'est Phil Collins, très bien. Ça, c'est un live, je veux pas le live, moi. On va écouter ça.
Cet été, pas besoin de voyager pour goûter.
Alors, les publicités ciblées, là. Bah ouais, comme par hasard, du McDo. Pour le roi de la junk food. Voyons. Il me cible bien, quand même. Hein. Il me cible bien. Ça cible, cible. Sachant que Paradise de Another Day in Paradise de Phil Collins, c'est une chanson mythique. She goes out at the end of the week. Full makeup in the mirror. So excited to finally meet the man who will see her. Ça. Puis il y a d'autres reprises de l'été. Doeshi a repris la mélodie du Somebody That I Used to Know de Gotye. Okay. Superbus a remis au goût de jour son tube Butterfly. Le DJ suédois Sébastien Ingrosso a publié une version électro du classique A New Day Has Come de Céline Dion. Et même s'il avait promis, on va finir en beauté sur du très fort. Et même s'il avait promis de lever le pied sur les reprises, David Guetta a réitéré avec succès cet été, en faisant appel à Bonnie Tyler, son Total Eclipse of the Heart, qui est une magnifique chanson de Bonnie Tyler, est devenu un entêtant. Together, ok, together, together. Et on finit avec ça. Together de David Guetta. Hop, fais voir. David Guetta, Together live, non, pas live. Là. Ça. Ouais. En vrai, on retrouve la chanson d'origine, c'est une forme d'hommage en fait. Moi ça me va, ça me va. Ça massacre pas l'original au moins de Drakeos, voilà. Ouais. Non, si, c'est pas mal. Bon après les goûts, les couleurs, voilà. Moi c'est pas... et Olivia Rodrigo. 13h28, faut que je fasse gaffe, ça va sonner là. Incroyable ce duo. Robert Smith, mesdames et messieurs. La voix est tellement toujours là. C'est incroyable en vrai. Incroyable. Bon, personnellement, moi, j'ai trouvé ça, c'est une de mes plus belles émotions de ces dernières semaines, c'est ce duo entre Smith, Robert Smith des Cure et Olivia Rodrigo, cette reprise qui est incroyable. Les amis, je vous abandonne, je vais retrouver mes enfants, je les emmène à la gare pour les emmener vers leur grand-mère. Je vous retrouve peut-être tard ce soir, peut-être même sûrement, je sais pas si... la Michougar est là, oui. Je pense qu'il y aura un petit stream Valo. On va essayer de reconstituer l'équipe de la Five Stack hier. On a vraiment passé un bon moment. J'ai bien envie de refaire un petit Valo ce soir. Donc, je sais pas, 20h, 20h30, 21h. Pas trop tard, je vais essayer. Pour pouvoir être de retour pour la revue de presse. Et pardon encore pour ce faux départ ce matin à la revue de presse à 9h, 9h30. Puisqu'en fait, j'ai eu des alertes un peu bizarres sur mon téléphone. Et on s'est rendu compte que quelqu'un s'est récupéré plusieurs de mes comptes. Et vous m'avez conseillé très gentiment, merci le chat, bah de cut le stream et d'aller changer mes mots de passe qu'on a fait tranquillement. Et du coup, je suis revenu une heure et demie après, je suis désolé pour ça. Donc, on a quand même fait la revue de presse, puisque ici, l'engagement, c'est de faire de l'actualité tous les jours du lundi au vendredi, que ce rendez-vous régulier devienne un rendez-vous vraiment quotidien du lundi au vendredi, sauf vraiment empêchement... type tournage, question pour un champion, mais ça, ce n'est que 2 semaines par an, donc on va plus être embêté trop de ce côté-là, et c'est pour ça que j'ai tenu à revenir. On se retrouve ce soir pour un peu de Valo, demain matin pour la revue de presse, 9h, 9h30, on fait un raid, bien sûr, qui est en live en ce matin, Twitch, qui est en live. Ok. Qu'est-ce qu'il fait mon ami, là? Ok. Attends, ça c'est bien ça. Ah oui. Ah là, et si on allait un peu dans la nature là. Ça fait longtemps que j'ai pas raid cette personne, c'est une streameuse, c'est bien ce qu'elle fait. Je regarde un petit peu les amis qui sont en live là. Ouais, écoutez, c'est une jolie chaîne en fait, ça s'appelle Libre et Sauvage, c'est une streameuse. Voilà. Streameuse au bord d'une rivière qui fait des roulades dans les pâquerettes. Est-ce que vous n'avez pas envie de ce contenu? Voilà. Hein. Hop. Oui ou non? Ah. Libre et sauvage. Je connais, je suis déjà, et c'est vraiment sympa. Ça va nous aérer un petit peu. Merci les amis. Prenez soin de vous. On se retrouve ce soir pour du Valo, demain matin pour la revue de presse. Merci encore d'être là. J'ai encore passé un bon moment avec vous aujourd'hui. Merci pour tout. À très vite. Ciao, ciao. Ça charge, ça part dans 5 secondes. Bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous. Ça part dans 3, 2, 1 et ça part.